aux élus, au public et à la presse qui n'est pas forcément arrivé, qui arrivera peut-être. Voilà donc, nous allons désigner comme secrétaire de séance mademoiselle Madame Louillot. Nous avons des procurations. Alors nous avons Madame Julie et Monsieur Cassard. Madame Combarnous pour Monsieur Bourguet. Et Jean-Michel Lyon pour moi-même. Voilà. Il y en a qui ne sont pas arrivés peut-être. Alain n'est pas arrivé. Il arrive. Je vous propose d'adopter le dernier procès-verbal, le procès-verbal du dernier conseil municipal qui n'a pas fait l'objet de remarques écrites et n'a-t-il en séance.
Non, juste on s'abstient comme d'habitude pour les mêmes raisons que d'habitude.
Très bien. Alors ce sera comme vous le dites, comme d'habitude. Pas de points retirés à l'ordre du jour, ni de points ajoutés. Voilà, nous avons ce soir un élément nouveau, c'est la tablette. Malheureusement, nous sommes rentrés dans une phase test de dématérialisation. Et si aujourd'hui l'ordre du jour du conseil municipal figure bien sur la tablette qui vous a été attribuée, malheureusement, la J-7, quand le conseil était préparé, eh bien, le paramétrage n'a pu être réalisé par la société malgré des efforts de déploiement importants. Je le regrette, d'autant que nous avions la semaine dernière, par vagues successives, invité les différents membres du conseil à participer à cette formation pour aller sur le site nouvellement créé. J'espère que la semaine prochaine, que le prochain conseil municipal, nous serons en mesure de le faire. Je vous prie de m'en excuser, c'est pas faute d'avoir mis tous les moyens en branle. Voilà. Cela dit, le conseil est en ligne ce soir. Vous avez, si vous avez la, vous tapez sur l'application délibération GFI et vous l'avez. Voilà. C'est comme vous voulez. Voilà. Bien. Avant d'ouvrir les propositions de délibération de l'ordre du jour, je tiens à faire une communication relative à un article qui est paru dimanche 12 décembre, qui s'appelait « Table de fin pour Martine à la plage des Lézards ». Il est dit dans cet article que l'attributaire est déjà désigné de la commission d'appel d'offres. Il est dit que le maire n'a pas soutenu une pétitionnaire qui n'a pas été écartée. Et il est dit que, clairement, que si le maire avait été un peu plus vaillant pour défendre le pot de terre contre le pot de fer, le sort de la consultation eût pu être inversé. Ce sort, on ne le connaît pas. Donc, je vais lire un communiqué qui sera annexé au procès-verbal, puisque j'ai demandé un droit de réponse à la presse locale qui s'en était fait l'écho et que pour le moment, ce droit de réponse ne m'a pas été accordé. Mais je tenais à ce que l'ensemble des membres du Conseil, au moins, ait l'authenticité de ma position et l'authenticité de ma démarche. Je vous le lis in extenso et je ne ferai pas d'autres commentaires. L'article intitulé « Clap de fin pour Martine à la plage des Arbres » dans vos colonnes le dimanche 12 décembre appelle plusieurs commentaires. D'un point de vue déontologique d'abord, un sujet mettant en cause le maire de la commune de Moyaux-Carnon se doit d'être traité en interrogeant l'ensemble des parties prenantes, outre le postulant, au lot de plage, le maire et le préfet. Ensuite, il est à noter que ce projet ne correspond à aucune actualité, puisque, contrairement à ce qui est annoncé, le point n'est nullement inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal du lundi 19 décembre, il le sera en fait le lundi 23 janvier prochain. Cet article relance inutilement une polémique passée et un débat qui n'ont pas lieu d'être. En effet, l'attribution des concessions de plage relève d'une procédure formalisée et encadré par une commission légalement constituée de 5 élus de la majorité, dont le maire, d'un élu de l'opposition et d'un délégué de l'État appartenant à la direction départementale des personnes publiques. Celle-ci analyse les offres en toute confidentialité sur la base d'un cahier des charges précis, comme l'exige la loi. Au final, elle propose au conseil municipal un classement des attributaires soumis à la validation de monsieur le préfet. Contrairement à ce que cet article pourrait laisser supposer, en tant que maire, je ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire de nature à déroger à cette procédure. Enfin, en ma qualité de citoyen, autant en ma qualité de citoyen que de maire, j'assume et revendique cette transparence de l'action publique, garante d'honnêteté. Voilà. Madame Combranos a participé à cette commission et je ne peux pas laisser filer sans réagir la propagation d'une supposée démarche que je n'ai pas eue. Monsieur Bourguet ?
Oui, juste rajouter un point, c'est que moi j'étais étonné quand j'ai lu cet article et pour dire que Madame Combranos, qui fait partie de cette commission, n'a même pas voulu me dire à moi. Qu'est-ce que vous aviez décidé en commission ? Voilà, c'était pour faire le point. Voilà.
Merci Monsieur Bourguet. Madame Combranos a très bien agi, pas plus que les membres de la commission et les services instructeurs. C'est un délit qui peut, c'est passible de prison. Ça s'appelle un délit d'initié ou un délit de favoritisme, selon comment on voudra. C'est trop grave pour qu'on puisse se permettre une quelconque allusion à qui que ce soit. Voilà. Et là, moi, je mets vraiment tout le monde et je vous remercie pour cette intervention, M. Bourguet. J'aimerais avoir plus souvent à le faire. Voilà. Très bien. Merci. Nous passons maintenant aux décisions municipales prises en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Alors, vous avez les différentes délibérations. Alors, une, c'est une concession au Colombarium du Bousquet. Ensuite, les autres relèvent de la clôture de la régie des recettes et des activités périscolaires pour les spectacles chorégraphiques, théâtrales, les animations micro du marché de Noël, entre parenthèses, un véritable succès. Et je félicite toutes les personnes qui s'en sont occupées, l'adjointe Madame Moulin, et tous les services et tous les spectateurs et les acheteurs qui sont venus hier investir la place et les rues de Mouillon, c'est vrai que c'était un plaisir à renouveler, comme quoi il y a des choses qui vont bien. Et il y en aura d'autres, je l'espère. Nous ferons tout pour cela. Ensuite, il y a sur le port de Carnon, manège enfant, des ateliers créatifs, un spectacle théâtral qui est à la FIMELA, le Père Noël, bien sûr, c'est la saison, le spectacle Cendrillon, combien tu chausses. Ensuite, ça c'est le nouveau français parce qu'il n'y a pas d'inversion du sujet. Et ensuite, le spectacle clownesque et les marionnettes. Voilà. Et pour finir, derrière, on a le spectacle Conte de Noël, la médiathèque de Gaston Bessette, avec une animation également du prestataire au micro de Marché de Noël. Voilà. Ensuite, viennent les marchés publics. Alors, nous avons les procédures adaptées entre 25 000 et 90 000 euros. Donc, vous avez une acquisition de débroussailleuses à bras articulés déportés, c'est-à-dire qu'ils nous ont repris l'ancienne pour 5 000 euros, je crois, et on a acheté celle-là. Et super 90 000 euros, c'est une extension de la bibliothèque au centre administratif de Carnon. C'est un avenant, lot numéro 10. Voilà. Viennent ensuite les délibérations relatives à la dernière commission d'appel d'offres qui s'est tenue pour les avenants de prolongation pour les marchés de carburant et de téléphone haut débit. Alors, pour les carburants, il y a, si vous voulez, un laps de temps entre la fin du marché des précédents attributaires que nous allons résilier et j'ai pour la téléphonie, pardon. Pour la téléphonie et le nouveau marché qui a été attribué. Alors donc, il convenait de signer un avenant le temps que les attributaires soient installés pour un délai d'un mois. Dans la téléphonie fixe, le titulaire, c'est Bouygues Télécom. L'ADSL, c'est Stella Télécom. La plateforme envoi de messages à la téléphonie mobile, Orange. Les services d'Internet, c'est Hero Network. Ensuite, pour les carburants, on a à l'enlèvement à la pompe d'INEF SAS, le samplon, le gasoil, le GPL, et ensuite on a Ramon et compagnie pour la livraison de samplon à la station d'avitaillement de Mouguio et la station d'avitaillement des ateliers de Mouguio et Carmont, et de gasoil, samplon et gasoil. Voilà. Donc, c'est ce qui a été proposé par la commission d'appel d'offres que je vous demande d'approuver. Qui est contre, s'abstient. Je vous remercie. Ensuite, ça c'est la fourniture. Oui, ça maintenant c'est la fourniture de carburant. Ce sont les nouveaux attributaires. Voilà. Alors vous avez les prix, vous avez les attributaires qui sont, mais ce sont les mêmes. D'INEF, avec le prix qui est fixé sur les dernières mercuriales. Je ne vais pas me livrer une lecture exhaustive. Avec l'enlèvement à la pompe, SP95, gasoil, ou GPL. Et ensuite, vous avez la livraison de SP95 pour la station d'avitaillement de Mouguio et de Carnon. Donc, je vous propose de signer les marchés par lot avec les entreprises attributaires d'après les prix unitaires du BPU, dans la limite minima maxima contractuelle, ainsi que tous les avenants y afférents. Y afférents, CMA et pas de S. C'est pas grave. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Ensuite est venu le lot de protection juridique pour l'assurance. Alors, on a une compagnie qui nous a... Alors, qui n'a pas souhaité renouveler le contrat, c'est Breteuil Assurance, qui a résilié le contrat. Et donc, comme chacun sait, la commune a besoin d'un contrat d'assurance en protection juridique. Et nous avons été obligés de relancer un appel d'offres ouvert selon les réglementations de la commande publique. Il s'avère que la société 2C Courtage CFDP Assurance, avec une prime annuelle de 2498,85 €, a été retenue. Je vous propose donc de signer le marché avec cette entreprise. Voilà, dans les mêmes... Pardon ? Oui, alors effectivement, je reprécise la démarche, c'est proposé par la commission d'appel d'offres à la validation du conseil. Donc je vous propose la validation de courtage, de société de courtage. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Ensuite vient l'impression de documents de communication. Alors là, également, ce n'est pas une forêt, parce qu'on essaie de ménager les arbres en dématérialisant nos conseils, mais il y a quand même pas mal de choses différentes. Vous le voyez, le marché est divisé en 4 lots. L'impression numérique, la reprographie de support de communication, avec un titulaire envisagé, nous proposons Impact Imprimerie. Vous avez le montant estimatif de l'entreprise, 750,60 €. L'impression de travaux d'édition offset, toujours Impact Imprimerie, pour 6 152 €. Le lot 3, impression grand format support spécifique, c'est New Media Fab, 4 222,80 €. Et pour finir, vous avez les enveloppes papier en tête, imprimées divers, papeterie Luquet et Duranton, 9 393,12 €. Bien sûr, les dépenses sont inscrites au budget. Je vous propose donc de signer les marchés par lot aux entreprises attributaires d'après les prix uniques unitaires du BPU dans la limite des montants qui sont fixés. Puisque pour chaque lot, on ne peut pas dépasser pour le premier 12 000, le second 54 000, le troisième 36 000, le dernier 8 400. Bonne observation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Passons maintenant aux produits d'entretien. Pour les produits d'entretien, eux, c'est encore plus complexe que les supports de communication. Nous avons 9 lots différents. Alors vous avez les produits d'usage courant, pour lesquels le titulaire envisagé est Nicolet Matériel. Les produits aérosols et désodorisants, toujours Nicolet Matériel. Je précise que nous avons beaucoup diminué les produits aérosols et désodorisants, toujours dans une démarche de développement durable. Vous remarquerez que ce marché n'est qu'un marché à 2 000 €, alors que les produits d'usage courant ont été à 20 000 €. On passe du 1 pour 10. Les petits matériels d'entretien ménager, on propose AET pour 10 941,24. Les produits d'hygiène et d'essuyage, First Plast, 22 843,8. Les sacs poubelles également. Je précise, pour avoir présidé cette commission, que ces sacs paraissent chers, mais qu'ils sont de qualité, et que l'attribution d'un marché à des sacs qui étaient moins performants nous a amené à doubler les sacs et avoir un service particulièrement mal rendu. Voilà. Donc, nous avons pris en connaissance de cause, en sachant qu'au global, l'attribution de ces marchés, le global est moins important que l'addition du précédent marché. Les sacs à déjection canine, Animaux Concept, pour 2274, c'est un chef de comptant. Les produits d'entretien technique, DACD, 4711,56. Les produits d'entretien de voirie, également DACD, 20 909. Ce sont les produits, vous savez, qui désodorisent, notamment après certains épisodes festifs. Quand le soleil darde ses rayons, un goudron qui est nourri par autre chose que de l'eau de pluie. Si vous voyez ce que je veux dire. Et le 9e lot, c'est le petit équipement d'entretien technique et de voirie. C'est la générale négoce de service pour 3 532,82 €. Voilà, donc je vous propose de m'autoriser à signer les marchés dans le respect des prix unitaires du BPU. Pas de questions, pas de remarques. Contre, abstention, je vous remercie. Et nous passons maintenant au projet de délibération relatif aux téléphonies, au VPN et au débit de la commune. Alors là, c'est encore quelque chose d'encore plus compliqué. Enfin, si je puis dire, nous avons 4 lots. Je vous fais grâce à la lecture du... Nous avons le lot 1, qui est en gros le service de téléphonie fixe, avec un titulaire envisagé que je vous propose comme étant Bouygues Télécom, pour 14 770 € par an. Ils ont renouvelé leur offre en baissant la part fixe. Le lot numéro 2, c'est les services d'accès à Internet et à la DSL, Stella Télécom. Vous pensez que c'était une bière? Non, c'est pas ça. C'est un service téléphonique, comme dit monsieur Nicolas. Ensuite, on a Orange. Pour le lot numéro 3, là, on les a pour les logiciels d'alerte, avec le service Contact Everyone, vous savez, quand il y a des problèmes d'inondation, notamment. Et puis, nous avons le Virtual Private Network, VPN, c'est NetiOne. C'est une affaire avec l'accès Internet et les débits garantis, voilà. Voilà donc le renouvellement de tous les marchés qui arrivaient à échéance et attribué pour 3 ans, c'est ça ? 3 ans, voilà. Donc je vous propose d'attribuer aux différents prestataires nommés Bouygues Télécom, Stella Télécom, Orange, 4 et NetiOne. Voilà, je vous propose d'attribuer ces lots dans le respect, bien sûr, des prescriptions du BPU. Contre, qui s'abstient ? Je vous remercie et je demande à Caroline Favier de vous parler du budget de la commune.
Alors, il s'agit d'une décision modificative, la numéro 4, suite à une extension du système de vidéoprotection urbaine, donc des travaux supplémentaires qui font l'objet d'avenants au marché 15-001 et nécessitent une augmentation de crédit sur cette opération. Donc il convient d'ajuster les crédits avec une diminution de crédit sur la ligne 21-28 et une augmentation de crédit pour l'extension vidéo protection urbaine à hauteur de 2 000 €. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 4 au budget principal de la commune.
Bien, je vous propose d'approuver cette décision modificative. Qui compte, qui s'abstient? Je vous remercie. Unanimité. Budget annexe de la commune Port de Carnon. Bonjour Madame Favier.
Donc là, il s'agit d'une décision modificative numéro 1. Donc, suite à la réception de produits irrécouvrables du budget annexe du Port de Carnon pour les années 2009 à 2015, qui ont été dressées par le comptable public et adoptées par le conseil municipal du 14 novembre 2016, il convient de la même façon d'ajuster les crédits. Donc, on fait une diminution de crédit sur la ligne 61-528 de façon à compenser l'augmentation de crédit à hauteur de 10 000 euros. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'adopter la décision municipale numéro 1 au budget annexe du port de Carmaux.
Bien. Merci Caroline. Monsieur Capelletti.
Juste une question. Ça veut dire quoi les nouveaux états des produits recouvrables du budget annexe? Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'était suite aux créances non recouvrables lorsqu'elles ont passé un certain nombre d'années
de
durée. Au bout de 4 ans, on se doit de les passer.
On perd ses profits.
C'est ça.
C'est comme si on passait en place
nous sommes, voilà, nous sommes obligés de créditer la somme. Et on la perd, ensuite elle est inscrite au budget, on la perd.
Et comme créance, c'était quoi ça? C'est une addition de toute petite créance?
Oui. Alors, on en avait une grosse d'un monsieur, rien que lui, c'est 20 000 euros. Eh, Dominique, un peu plus de 20 000 euros.
Un bateau,
voilà. Un bateau qui avait la personne malade, problème de santé, problème de pépinière. Voilà ça.
Vous avez tout le détail sur le
conseil
le dernier conseil où on avait mis vraiment le détail de chaque créance et la durée, le nom, le montant. Voilà. Par contre, ce qui n'empêche pas après, c'est ce qu'on avait précisé lors du dernier conseil, de pouvoir entreprendre des démarches pour les récupérer si on juge que c'est encore possible.
Bien. Monsieur Fondé, allez-y.
Et bonsoir, monsieur le maire, monsieur le collègue. Je profite de cette question pour revenir sur une question que vous avez déjà posée. Est-ce qu'on a des nouvelles de nos loyers en cours? Je pense à la passerelle et je pense aux différentes concessions qu'on a attribuées aux plages pour savoir si la température est bonne.
Alors, la première question appelle une réponse positive. La société Toscanello a réglé la somme due, elle a réglé le loyer de la dernière échéance, il est réglé. Pour ce qui est de l'eau de plage, nous avons reçu, il y a peu de temps, M. Bach a reçu l'envoyé à terre, qui n'a pas encore payé, qui a dit qu'il payerait avant la fin de l'année, puisque nous avons... il sait que le receveur communautaire, le receveur municipal, qui est receveur communautaire, enverra un commandement s'il ne le fait pas. Il s'est engagé à payer avant la fin de l'année. Voilà.
Si, vu que nous sommes très expérimentés maintenant, si on avait un pépin sur ces concessions et qu'elles ne soient pas réglées, est-ce que le marché deviendrait caduque? Est-ce que la DSP deviendrait caduque ou pas? Est-ce que ça fait partie des moyens que nous avons?
Oui, bien sûr, ça en fait partie. Si vous ne payez pas vos obligations, un contrat, c'est des obligations réciproques. Et le prix en fait partie. Donc, si vous ne remplissez pas vos obligations, la collectivité peut demander l'annulation du contrat.
Donc ça veut dire que quand je reviendrai en janvier avec la même question... on aura soit de bonnes nouvelles, soit tout un tas d'outils
absolument
sur la table.
On est d'accord.
Dernière question.
Il faut déjà que ce trésorier ait épuisé toutes ses poursuites.
Ah, c'est...
Le trésorier engage les poursuites pour non-paiement, il va jusqu'au bout.
Et à la fin, on peut prononcer la résolution du sous-traitant.
C'est automatique. Il n'y a pas de... On ne peut pas nous prendre une décision avant le trésorier. Non, c'est pas pour...
Il faut épuiser les poursuites.
D'accord. Deuxième question, est-ce que je me trompe, mais traditionnellement, le débat sur le DOB se déroule au mois de décembre. C'est peut-être... J'ai une vision traditionnelle des choses.
Oui.
Fin décembre.
Si vous aviez retrouvé votre mouchoir de 2015, vous auriez su que l'on l'avait fait en janvier, comme l'an dernier, mais que précédemment, il nous est arrivé de le faire plus tôt. Oui.
Bon, là, il n'y a pas, matière à s'inquiéter. On aura...
Non, monsieur Pradé. On le voit. Il y a de quoi nous réjouir. Allez savoir.
Pourquoi pas. Oui, il faut mieux. S'il y en a tout inquiété, ce sera peut-être plus facile à boucler. Donc, c'est, on peut envisager un DOB en janvier.
Mais le DOB aura lieu en janvier et le vote du budget aura lieu au mois de mars.
Oui.
Le 23 janvier, DOB.
Oui. Très bien.
Je vous le dis. Bien. On a voté ou on n'a pas voté? On n'a pas voté. On passe au vote. C'est le vote, c'est sur les produits recouvrables. Contre, abstention. Merci. Les tarifs communaux. Toujours Madame Favier.
Comme chaque année, il y a lieu de modifier les tarifs communaux. Monsieur le maire précise que les tarifs et droits de place ont été fixés en accord avec les organisations professionnelles intéressées et notamment les représentants des commerçants non sédentaires en application des articles 35 de la loi 73-11-93 du 27 décembre 1973 et du L22-24-18 du Code général des collectivités territoriales. En outre, les tarifs concernant le port de Carnon ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil portuaire du 8 décembre 2016. Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d'adopter les tarifs communaux 2017 que vous avez bien sûr en annexe.
Avec des augmentations très modérées en fonction des pieds, des propriétaires des pieds, enfin, des bateaux. Je comprends pourquoi M. Pradé s'est fait des soucis. Il dit l'adjointe aux finances s'est enrhumée. Il ne voulait pas que le budget soit malade. Ce n'est pas le cas.
Non.
Le budget va mieux que,
l'adjointe. Je ne suis pas représentative du budget.
Vous savez, quand l'adjointe commence à couper son propre chauffage, je vais quitter pour la dernière.
Bien.
Oui.
Monsieur Bourguet, je vous en prie.
Voilà. Donc nous on va s'abstenir sur ce sujet parce qu'on vote tous les tarifs d'un seul bloc. C'est un choix que vous avez fait. On aurait pu voter par tranche par tranche. À ce moment-là, il y a des choses qu'on aurait votées et d'autres qu'on n'aurait pas votées. Mais dans le cas présent, il y a des tarifs qui ne nous conviennent pas, notamment pour les associations, on l'avait déjà dit l'an dernier, pour les parkings, etc., pour les puces. Donc voilà, donc on va s'abstenir globalement, sauf si vous voulez qu'on vote tranche par tranche.
Mais... On propose, si vous voulez, des... Pardon ? Oui, la délibération est globale, effectivement. Ce sont des tarifs vraiment très modérés par rapport en termes d'augmentation, par rapport à l'année dernière. Il n'y a pas de... Même certains ne bougent pas.
Oui, mais il y a des choix qui ont été faits avec lesquels déjà l'an passé, on n'était pas d'accord.
Très bien. Bon, écoutez, j'en prends note. Oui, on peut voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. La débroussailleuse dont on avait parlé tout à l'heure, c'est la reprise. Hein.
Toujours là, c'est une question.
En fait,
dans le cadre de l'acquisition d'une débroussailleuse à bras articulés déportée de CD par une. Il convient de céder, pardon, par une reprise à des débroussailleuses avec le bras articulé acheté en 2009. Le prix de la reprise de la débroussailleuse a été fixé dans le cadre du marché. Donc le montant de la reprise a été noté à 5 000 €. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à céder dans le cadre d'une reprise la débroussailleuse au prix de 5 000 €.
Propos de bras, vous êtes prêts à lever. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point suivant.
J'ai une question.
Monsieur Capetti.
C'est qui a l'erreur net comptable, c'est débroussailleuse, qui est à nous, hein, c'est ça?
Oui.
C'était zéro.
Vous l'avez amorti.
Il est amorti.
C'est parce qu'il est amorti.
Et vous l'avez vendu 5 000.
Voilà.
Oui. Ben, c'est bien ça. Donc qui est le vendeur? Il faut savoir qui a vendu.
La commune.
Oui, non, mais d'accord, mais qui?
Qui est le négociateur?
Qui est le négociateur de... C'est bien. 25 000 euros, c'est bien.
Ça a porté la consultation.
Hein. Non.
Hein?
C'est de la consultation.
C'est lui qui a vendu un nouveau matériel.
Ah oui, non. Sinon, non. C'est toutes les traces.
Comme je me serais rapproché de lui pour des affaires personnelles.
Non,
Il a fini le survie, c'est encore discutable.
Il a un peu d'herbe à couper.
Bon, tant que c'est pas l'herbe fumée.
Allez, plus long de mon dieu.
Allez savoir.
Point suivant. Expansion des objectifs et modalités de la concertation relative à la modification du périmètre de la faune de Mogio. Donc, je ne vais pas vous lire l'ensemble de la délibération, cependant, les premiers termes me paraissent nécessaires d'être lus in extenso. Donc, par délibération du 19 décembre 2011, déposée en préfecture le 22 décembre 2011, le conseil municipal a approuvé le dossier de création de la ZAC Fonds de Mondiaux. Le secteur est classé en zone d'urbanisation future au POS, puis au plus de la commune depuis 1995. Je rappelle les objectifs. La réponse aux besoins de logement de la commune à l'horizon 2030, qui ne peuvent être satisfaits dans l'enveloppe urbaine existante. La nécessité d'assurer un parcours résidentiel avec une diversité de logements, notamment de logements maîtrisés à travers la création de 30% de logements locatifs sociaux. La volonté d'inscrire ce secteur dans une vision cohérente du développement de l'Est de Montguillot en termes de prise en compte des risques hydrauliques et de maillage vierre, de favoriser des modes de déplacement alternatifs à travers une desserte du secteur par les transports en commun et l'aménagement de cheminements d'eau accordés aux aménagements existants, de concevoir des aménagements de qualité conviviaux en accord avec l'identité de la commune. Suite aux événements météorologiques de septembre 2014, la commune a décidé d'engager en 2015 un programme d'études à l'échelle du bassin versant Est afin d'améliorer la connaissance en matière de risque d'inondation et évaluer la pertinence de recourir à des aménagements de protection. Ces études ont été menées en étroite concertation avec les services de l'État qui ont engagé la révision du PPRI ainsi qu'avec le CIMO en charge d'élaborer le plan d'aménagement de prévention contre les inondations, PAPI. Le résultat de ces études, après validation des services de l'État, a pu être présenté à la population lors d'une réunion publique le 13 décembre dernier, ainsi que les conditions de poursuite du projet de ZAC, dont une partie pourrait être classée en zone d'aléa inondation par le futur PPRI en cours de révision. Il est donc aujourd'hui proposé au conseil municipal d'anticiper le futur PPRI en prenant la décision de réduire le périmètre de la ZAC de 31 hectares à 19 hectares, s'exonérant ainsi de tous aléas d'inondation. J'indique aux membres du conseil municipal qu'il apparaît ainsi opportun d'envisager la modification du dossier de création de ZAC. Donc, dans le cadre de cette procédure, suivant le code de l'urbanisme, il convient d'engager la concertation associant pendant toute la durée d'élaboration du projet les habitants, les entreprises locales, les associations locales et les autres personnes concernées sur la base des objectifs suivants. Alors, vous avez bien sûr toute la liste des mises à disposition des études, l'affichage en mairie, l'organisation d'ateliers participatifs, l'organisation d'une ou plusieurs réunions publiques, la durée de la phase de concertation qui sera supérieure à un mois, et la nécessité, à l'issue de la concertation, de faire un bilan présenté devant le conseil municipal qui en délibérera avant que le dossier ne soit mis à disposition du public en mairie. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les objectifs poursuivis par le projet d'aménagement, deuxièmement, d'engager la concertation préalable à ce projet d'aménagement selon les modalités exposées. Troisièmement, de charger M. le maire de mener la concertation. Quatrièmement, de préciser que la concertation se déroulera pendant toute la durée de l'élaboration de l'opération d'aménagement avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Voilà, j'ajoute comme commentaire, avant de céder la parole aux personnes qui souhaitent intervenir, que, effectivement, aujourd'hui, rien n'est opposable à ce que l'on investisse toute la zone qu'on laisse la ZAC telle qu'elle est. Mais monsieur le préfet nous a dit que le futur PPRI et le porté à connaissance de l'État qui se ferait dans les semaines à venir avaient identifié, suite à l'étude hydraulique, une zone d'aléa modéré qui ne serait pas éligible à l'urbanisation. En conséquence, nous prenons les devants pour ne pas retarder la poursuite de cette opération engagée en 2006. Et je vous demande ce soir d'approuver la modification qui anticipe la décision de M. le préfet qui a écrit, dans un courrier que je tiens à votre disposition, la nécessité de réduire le périmètre de l'opération. Je vous cède la parole pour ceux qui veulent la prendre.
Monsieur Bourguet, je veux bien.
J'ai une déclaration à faire, mais avant, je voudrais vous poser une question. Parce que vous ne nous avez pas fourni le périmètre de ces 19 hectares. On a parlé de carte, joint à ce document de convocation au conseil municipal. Donc, je voulais savoir dans les hectares que vous avez exclus par rapport à l'origine, est-ce qu'il y a des terrains que nous avons déjà achetés ? C'est la première question que je voudrais poser avant de vous lire une déclaration.
Ben, je suis étonné, monsieur Bourguet, vous êtes quelque part plutôt dans la contradiction.
Ah.
J'ai pu, parce que je suis un internaute averti, j'ai pu consulter sur votre site, effectivement, que vous mettez à disposition la carte d'aléa qui a été proposée à la réunion de concertation du 13 décembre. Et ce soir, comme quelqu'un qui serait tombé dans la dernière pluie, vous nous dites que vous ne l'avez pas eu. Je ne comprends pas, monsieur Bourguet. Vous êtes dans une imposture.
Non, je n'ai pas. On n'a pas
et de... si.
Un plan, toi.
Et si. Vous voulez qu'on aille sur Internet, regardez ce que votre site dit. Vous rigolez. Vous le savez. Vous le savez.
Non, mais je veux savoir. Je veux savoir.
Écoutez, alors, si la déclaration du même tonneau, ça nous promet bien du plaisir.
Je veux savoir ce que vous comptez faire des terrains qui sont sortis de la ZAC.
Mais, monsieur Bourguet, les terrains sortis de la ZAC seront des terrains dédiés justement à l'opération, des terrains qui seront dédiés, qui resteront à la nature, qui seront à l'agriculture, dédiés à l'agriculture. On y aura peut-être le projet à construire, c'est-à-dire que l'opération, les terrains que nous avons achetés, nous allons les garder. Nous allons les garder et faire un petit peu ce qu'on a fait avec l'aire de loisirs, c'est un exemple, ça ne sera pas forcément ce qui sera choisi, la plaine des sports qu'on a faite après qu'on ait beaucoup densifié le centre de Mouguio. Là, on va conjointement mener parallèlement une opération qui verra 19 hectares urbanisés et 10 hectares ou 11 hectares qui sont, elles, dédiés au cadre de vie et au maintien du cadre de vie qui est un des objectifs de cette opération. Et je précise que dans le projet initial, qui était de 31 hectares, il avait été dit, et j'y m'étais engagé, à ce que 10 hectares, le tiers, du côté de la Canoule à l'est, soient dédiés à des espaces verts. Aujourd'hui, ces espaces resteront toujours verts. L'opération sera réduite. Pas de problème. Et nous arriverons au contraire, j'allais dire, à combiner une certaine complémentarité dans le développement stratégique de notre ville, de Canoë et de Mouguio, avec des composantes, avec des leviers différents, qui ne seront pas que le seul levier de l'extension, qui est celui que nous avions choisi, puisque le PPRI nous permettait de le faire.
Donc je ne comprends pas quel est l'intérêt de les sortir de la ZAC, même s'ils ne sont pas constructibles, quel est l'intérêt de les sortir du projet ?
On ne les sort pas du projet, monsieur. On est obligé de... La délimitation de ZAC, monsieur Bourguet, est la délimitation de la zone constructible et urbanisable. Ce qui en est sorti, c'est la carte que monsieur le préfet va communiquer dans le porter à connaissance dans les semaines à venir. On n'a pas le droit d'inclure dans la ZAC des endroits, des zones qui ne sont pas constructibles. Et la rétention d'eau inhérente à la ZAC se fera à l'intérieur du périmètre urbanisable. On ne peut pas le sortir.
Voilà. La fosse de Mouguio est un boulet que la commune traîne depuis plus de 10 ans. C'est en 2006 que l'on a commencé à s'engager dans l'achat de ces terres. Au départ, il s'agissait d'un ambitieux projet immobilier. Dès le départ, les citoyens et les élus et certains élus ont tiré la sonnette d'alarme pour diverses raisons. Un projet démesuré, pas d'études sur les conséquences hydrauliques, difficultés de desserte, etc. Mais sans répondre à ces questions, d'année en année, la commune a continué d'acheter et d'emprunter. La dette par la suite fut transférée à leur aménagement. Cela a soulagé la comptabilité de la commune, mais au final, cette dette nous incombera si le projet ne s'avère pas rentable. La dette, mais aussi les dépenses, continuent de grimper d'année en année en frais d'études, en prestataires, comme leur aménagement que l'on rémunère pour gérer ce dossier. Or, on sent bien que quelque chose cloche dans cette affaire, que l'on marche à l'envers. On dépense sans compter et on emprunte tout en naviguant à vue, sans connaître les faisabilités réelles, malgré les alertes des collectifs, des associations, des élus. Et tout cela est couronné du fait que ce projet ne remporte pas l'adhésion de très nombreux habitants de la commune d'une part, ni celle d'une dizaine de propriétaires fonciers non enclins à vendre, ce qui donne à la Fondo Moggio une fragilité supplémentaire. Depuis 2014, les élus de la fabrique citoyenne ne cessent d'alerter, de réclamer des études hydrauliques, l'enquête au titre de la loi sur l'eau, les études de l'Adréal, les projets routiers du département. Sans réponse à nos questions, nous avons envoyé de nombreux courriers aux services de la préfecture pour les alerter de nos inquiétudes. Voilà enfin que des études hydrauliques sont réalisées en 2015 et 2016. Monsieur le maire, vous osez dire publiquement que vous avez commandé ces études suite aux inondations de 2014. Je me demande de quelle commune vous êtes élu depuis tant d'années. Ces études, dont en plus nous n'avons même pas eu communication des résultats. Et j'espère que nous les aurons rapidement. Suite à ces études, monsieur le maire, vous nous proposez aujourd'hui de réduire le périmètre de la ZAC de 31 hectares à 19 hectares. Ce pourrait être a priori une bonne idée, mais il faudra alors nous dire ce que vont devenir les terrains que nous avons déjà achetés à 250 000 euros l'hectare en moyenne. Si vous sortez, bon, le reste vous avez répondu à ma question déjà. Monsieur le maire, dans le souci de limiter la casse, que vous souhaitez réduire le périmètre de moitié sans diviser par deux l'urbanisation et donc densifier plus que ce qui était prévu initialement. Le besoin de ce projet immobilier n'est pas prouvé. Et si vous lisez mes publications, je vois que vous le faites, j'ai même démontré le contraire, c'est-à-dire son inutilité et même ses dangers pour la commune. Et surtout, et ne me faites pas dire que je suis contre le logement social, j'ai de nombreuses propositions et solutions alternatives en la demeure. Aussi, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, la Fondo Moggio prend l'eau. Pour éviter une gabegie financière annoncée, je vous demande solennellement aujourd'hui de changer radicalement de cap et de changer la destination de la Fondo Moggio. Et si vous cherchez des idées, si cela vous intéresse, je vous informe que la Fabrique citoyenne du Pays de l'Or porte une alternative réaliste qui serait un complexe agroéconomique et agroécologique, une solution qui permettrait de tourner le dos à un programme d'urbanisation, de préserver et rendre sa vocation agricole à ce site, tout en valorisant les investissements, et ce, même dans les zones non constructibles au sens du futur PPR. Un projet qui serait de surcroît créateur d'emplois pérennes. Merci.
Monsieur Bourguet, chacun appréciera l'authenticité et la manière dont vous êtes emparé vraiment de quelque chose qui vous est viscéralement cher. Un projet, la critique du projet que je porte avec l'équipe municipale, je pense que la lecture de ce document n'est pas à mettre à votre crédit. Ça c'est pour la forme. Pour le fond, vous parlez d'un ambitieux projet immobilier. Vous avez mal lu, vous avez mal compris, vous le faites exprès, je ne sais pas. Ce n'est pas un projet immobilier, c'est une vision. C'est une vision du Moggio de demain qu'on a initié avec l'équipe d'Yvon Pralé en 2006, dont j'étais, et qui se voulait avec une vision réaliste et prospective d'autre chose que du lotissement comme forme urbaine de développement. Vous parlez d'un projet démesuré. Un projet démesuré, c'est un projet qui est gros, que l'on fait vite et qui coûte cher. Un projet démesuré, ça n'est pas cette idée qui était celle de faire 30 hectares en l'espace de 15 ans avec 60 logements par an, c'est ce à quoi nous étions engagés. Vous dites que nous transférons une dette. Il n'y a pas de dette. Le budget est un budget spécifique. On ne transfère aucune dette à leur aménagement et contrairement aux couillonnades que vous écrivez, je persiste ici parce que ça ne porte pas d'autre nom, que l'on doit de 200 000 euros ou... Non, vous avez écrit... Je vais chercher mes notes. Vous avez écrit plusieurs millions d'euros, je ne sais pas. Je vous le retrouverai, je vous le dirai tout à l'heure.
J'ai écrit qu'on arrivera bientôt à 1 million d'euros de dépenses sur ce dossier.
Mais on a engagé plus que ça, monsieur.
Ah, plus
mais
que
ce
ça,
sont pas des dettes. On a engagé plus de 5 millions d'euros pour l'acquisition des terrains. Et je vous signale que vous révérez vos sources, si tant est que vous en ayez. Les terrains n'ont pas acheté à
10 millions, je voulais dire.
Les terrains, voilà.
Si vous excusez-moi.
C'est pas grave. 250 000 euros à l'hectare, monsieur, ce n'est pas vrai. Les terrains ont été achetés 230 000 euros pour les plus chers et 200 000 pour les plus chers.
Plus, donc, plus les frais de notaire, etc.
Non. C'est, les terrains, c'est ce qui coûte. Vous parlez que...
Si vous rajoutez les intérêts et tous les frais liés, ça fera 250 000 euros.
Vous parlez de non-communication des résultats des études hydrauliques. Les études hydrauliques nous ont été communiquées en début de l'été. Il y a eu des navettes qui se sont faites avec la DDTM. La DDTM nous a dit le prochain porté à connaissance de l'État, par rapport à ce que vous nous décrivez, ne permettra pas la réalisation. J'ai dit à monsieur le préfet, nous avons urgence à réaliser cette opération et on ne peut pas être bloqué en attendant que vous fassiez votre portée à connaissance de l'État. Eh bien, on a discuté sur la base des éléments hydrauliques qui ont été analysés. Ces éléments hydrauliques, on les a eus récemment, on les a communiqués, monsieur le préfet nous a communiqué officiellement sa position la veille de la réunion. Nous étions vus une semaine avant et monsieur le préfet s'était engagé justement à donner ces éléments. Vous parlez, je ne sais pas par quel tour de magie, vous arrivez à trouver une manière de produire du logement. Vous savez que nous sommes dans une communauté d'agglomération, que nous sommes soumis à un plan local d'urbanisme, un plan local de l'habitat. Vous savez que nous avons des objectifs à atteindre. Et la commune de Moguio, en réduisant la voilure qui était celle de 1500 logements en l'espace de 15 ans, dans les années qui viennent de s'écouler, diminue, on passe à 1150 logements dans les 15 ans qui viennent. C'est-à-dire que je m'étais engagé avec l'équipe, il y a 2 ans, à ne pas augmenter la production de logements. Non seulement nous ne l'augmentons pas, mais nous la diminuons. Et ceci dans le respect du document d'objectif, du SCOT, que nous allons approuver au cours de l'année 2017.
Donc il a été dit qu'il n'était pas contraignant, que c'était un maximum.
C'était un maximum.
Pas un minimum.
C'était un maximum. Donc nous avons, d'accord. Si vous voulez, par rapport aux communes périphériques dans la couronne montpelliéraine et par rapport aux communes de l'agglomération, nous sommes la commune dont le taux de croissance sera le moins important. Pour votre gouverne, la ZAC des Châtaigniers à Saint-Onès, pour une population aujourd'hui qui est de 3500 habitants, est en train de se faire sur 18 hectares. Moi, je n'ai rien à dire à cela. Vous le mettez en rapport avec la ville de Moguio-Carnon, nous sommes de 17 000 en tout, et où là, la proportion est de 19 hectares.
Non, mais on peut décider qu'on veut que la communauté urbaine de Montpellier soit équivalente à Toulouse, que dans 20 ans, il y ait 1 million d'habitants. Non. On peut le dire, si vous voulez.
Non, moi, je vous ai dit, si vous étiez venu, j'ai eu le plaisir d'accueillir certains de vos confrères à la réunion du 13 décembre, vous auriez entendu, et c'était écrit dans le PowerPoint, est-ce que l'objectif est d'avoir plus de population? Je vous ai dit, la réponse est non. Je signale quand même à votre attention qu'en ce moment, nous sommes en train de fermer certaines classes dans certaines écoles. À Carnon, de 4 classes en maternelle, on est passé à 3. On risque la suppression de la troisième arrivée à 2. On a le vieillissement, M. Bourguet. Aujourd'hui, les plus de 60 ans représentent plus de 30% de la population, alors qu'il y a 10 ans ou 15 ans, c'était 10%. Cette nécessité est à prendre en compte. On a aussi des personnes qui, vous l'avez pas vu, ont besoin d'éco-habiter. On a des couples qui se séparent, on a des familles monoparentales, on a des familles... Bon, eh bien, un logement sur 4, sur les 5000 logements qui se sont faits dans ces dernières années, eh bien, on en a 20% qui se sont faits pour répartir la même population qu'avant. Donc, on a besoin de davantage de logements. Avec des typologies, Mme Grèce le sait, elle travaille. Oui, elle travaille. Elle travaille activement au CCAS. Elle pourra vous dire que pour loger autant de personnes, eh bien, il faut davantage de logements avec plus de T1, plus de T2. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous laisser dire, M. Mott, que vous ayez votre idée, ça vous regarde, et c'est un mieux comme ça peut-être. Mais que vous parliez de gabegie financière sans rien savoir sur le montage financier de cette opération, je ne peux pas vous laisser dire cela. Cette opération est une opération qui se fera avec du boni, c'est-à-dire elle sera équilibrée. Et je prétends, et je dis haut et fort, je ne le prétends pas, je le dis, que cette opération permettra, à l'image de ce qui se fait aujourd'hui à Mudéserme et le plan désert, où on arrive à avoir des prix, style logement abordable, 230 000 euros pour des familles qui sont primo-accédantes, des familles qui sont exclues dans notre commune. Je prends l'engagement de pouvoir, en 2019, commencer à loger des familles. Alors, le prix ne sera peut-être pas tout à fait le même, mais il sera, en tout cas, largement en dessous du seuil du privé. Parce que nous, non seulement nous arriverons à loger les primo-accédants avec des maisons qui sera en continuité avec du loyer à bâtir ou du logement social, parce que vous le savez, on est redevable d'une somme considérable, 175 000 euros en 2018, pour les trois années où on a été carencé. J'espère que cette somme sera revue. Non seulement nous aurons la possibilité d'offrir un logement moins cher, mais en plus, nous financerons une école, un groupe scolaire et une salle. Alors, le boni de l'opération sera un peu moindre que ce qu'il était prévu initialement, en sachant aussi, ça vous oubliez de le dire, mais vous êtes dans votre rôle, que les travaux hydrauliques seront bien moins importants qu'ils l'étaient dans la version initiale. Dans la version initiale, on avait un delta, M. Pradeil s'en est souvent inquiété, et nous aussi d'ailleurs, entre 3 et 5 millions d'euros, on ne savait pas. Là, aujourd'hui, on est à 1 million d'euros de travaux hydrauliques, c'est-à-dire la facture des travaux hydrauliques compense la facture des terrains que nous avons achetés, qui sont dévalorisés certes, mais que nous réutiliserons pour le bénéfice de l'opération. Et quant à la densité, alors la densité, M. Bourguet, je ne comprends pas. Quand Yvon Borel, maire de la commune, souhaite étendre la commune, vous me dites, mais M. Borel, vous êtes insensé, ça ne va pas. Il faut densifier le cœur de ville. Il faut essayer de réinvestir le logement vacant. Il faut faire, grâce à la loi Allure, la ville sur la ville. Alors, quand je fais cette opération au titre du groupe que je préside, quand je fais cette opération en menant, en haussant la densité de 30 à 38, parce que c'est ce qu'elle sera, elle sera de 38, M. Bourguet. La densité de cette opération sera de 38. À ce moment-là, vous me dites que c'est une densité insupportable. Alors, vous avez une géométrie variable, c'est-à-dire que quand
vous avez une densité... Non, non, je n'ai pas dit.
Monsieur Bourguet, vous avez été... Je termine et puis je vous redonne la parole.
J'ai dit vous divisez par deux la surface, mais pas, pas le nombre de logements.
Monsieur Bourguet, de 19 à 30, ce n'est pas divisé par deux. Les logements, il y en aura 700 au lieu de 1000, oui. Ils seront légèrement, ça sera légèrement plus densifié.
C'est tout ce que j'ai dit.
Oui, monsieur. Non, mais dans vos interventions précédentes, vous avez toujours prôné la densification en centre-ville. Mais la densification, monsieur Bourguet, je profite pour vous le dire, elle est également menée. Il y a une potentialité ici de 350 logements à peu près en termes de densification. Nous sommes en train de travailler avec le cabinet Nicaïa dans le cadre d'une stratégie de développement de la commune où nous allons identifier l'année prochaine, on va revoir le PLU, on le révisera s'il faut le réviser, pour faire un urbanisme de projet, pour identifier des zones où on a des polarités, des zones où il est repéré des zones comme étant densifiables, et l'objet de la dernière réunion au niveau de l'urbanisme à laquelle assistaient certains élus qui ne sont pas forcément dans la majorité, mais avec lesquels on peut tomber d'accord, M. Pradeil était présent ce jour-là, eh bien, sur certains points, M. Pradeil. Bon, en tout cas, on est arrivé, si vous voulez, à dire que nous étions dans quelque chose de constructif au sens premier du terme, sans jeu de mots du tout. Alors, moi, je veux bien que vous apportiez la contradiction, je le respecte, mais soyez logique. Soit vous prenez la densification et c'est une bonne idée, soit vous dites que la densification n'est pas une bonne idée. Vous la prenez quand il s'agit de redensifier la ville, vous la critiquez quand il s'agit de la mettre dans une opération d'extension qui est mesurée. Moi, je pensais, vous auriez fait aujourd'hui l'intervention, en vous réjouissant que le projet était moins important que prévu, et que la nature gardait ses droits, et que les propriétaires... Alors, les propriétaires, vous êtes un propriétaire. Et je termine là-dessus. Monsieur Bourguet, quand on achetait les terrains aux propriétaires, vous avez été de ceux, certains de vos collègues, qui avaient critiqué en disant qu'on spoliait les propriétaires, parce que les propriétaires avaient besoin de leur outil de travail, et qu'à 230 000 euros l'hectare, on les spoliait. Eh bien, aujourd'hui, puisque ces terrains valent beaucoup moins, si vous êtes d'accord, je vous nomme ambassadeur et négociateur pour aller proposer aux propriétaires, on va leur dire, ramenez-nous l'argent, on vous rend le terrain. Et on verra si ça marche à votre sens.
Voilà. Non, mais moi, je parle d'abord des propriétaires qui n'ont pas encore vendu, parce qu'il y en a quand même 10 hectares qui n'ont pas encore vendu.
Alors, ceux qui sont dans la zone abandonnée, les autres, on ne les rachètera pas, monsieur.
C'est sûr, ça, c'est normal.
Voilà.
Voilà. Ensuite, quand je dis, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est justement ce que je dis quand je dis on marche à l'envers, c'est-à-dire que l'étude que vous commencez à lancer pour savoir ce qu'on peut faire dans la ville dans la ville, c'est ça qu'il fallait faire depuis à partir de 2006, avant de se lancer dans le reste. Il fallait d'abord savoir ce qu'on pouvait faire dans Mourgiot avant de commencer à l'agrandir.
Monsieur Bourguet, voilà, la tout. Qualité du cadre de vie, elle passe par certaines options qui sont celles que nous avons prises en 2006. On a dit voilà. Ah. On ne néglige pas la possibilité de densifier le centre-ville tout autant que la disparition des caves et du caractère rural de notre ville, des pierres qui en font le charme.
Bien sûr.
ne sont pas sacrifiés au profit de bâtiments roboratifs où il manque de commerce, il manque de convivialité, on s'y est attaché, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le logement vacant ne représente que pratiquement rien. On a 330 logements vacants, il y a une centaine qui sont utilisables, on en avait en 1986, on en avait 1700. Nous sommes une des communes qui avons le moins de logements vacants, ce qui prouve que depuis des années, et ce n'est pas grâce à moi en particulier cette année, c'est un phénomène que nous avons encouragé depuis plusieurs années, justement, de dire, eh bien, nous allons essayer de rendre la ville un peu plus intelligente, plutôt que d'avoir un endroit délabré. Monsieur Galibin, il était tranquille, il avait sa vente de légumes et ses pigeons qui venaient au-dessus, il y avait un caractère magnifique à cette époque. Eh bien, le jour où son propriétaire a décidé qu'il préférait faire un immeuble, eh bien, on a fait un immeuble. Bon, le charme de Mogio, c'était un petit peu ce caractère rural, on l'a perdu.
On pouvait faire mieux, hein.
On pouvait faire mieux, certainement. Donc aujourd'hui, on a pris la mesure de ce que la densification pouvait avoir de mauvais, comme côté sud par exemple, où depuis Monsieur Cassard a pris la directive des opérations avec l'équipe municipale pour justement éviter cette densification en outrance et ses dangers. Le fait qu'un PLU de 2006 est un PLU qui aujourd'hui, eh bien, il est passé un petit peu d'âge. La loi Allure, une loi avec un jeu de mots ahurissante parfois, dès lors qu'on permet de laisser les clés à toute initiative privée, et on vous plante des immeubles partout et n'importe comment. On ne peut pas tolérer cela. Monsieur Bourguet,
ça, je suis le premier d'accord. Voilà. Je suis un amoureux de la pierre.
Voilà, donc, densifier, oui, mais pas n'importe comment.
Bien sûr.
Comme on dit l'ordre, déshabillez-moi, mais pas tout de suite.
Je suis d'accord. Ce que je dis, c'est qu'on n'a pas mené ce travail.
Mais
jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas mené.
Mais tout ce que vous réfléchissez, monsieur Bourguet, voilà. vous êtes focalisé sur la faune de Mogio.
Non, je travaille sur le reste.
Vous l'avez fait comme ça, vous le prenez comme ça. Nous sommes en train de vous proposer une solution, et au lieu de nous dire que c'est bien, vous nous dites que vous auriez dû le faire plus tôt.
Non, mais je dis juste, voilà, qu'il y a d'autres solutions que la faune de Mogio pour...
Monsieur Bourguet,
voilà, c'est tout.
Je terminerai en disant que le cadre de vie nous est cher, et qu'on a toujours voulu une évolution de la ville compatible avec l'attente des habitants. Et quand vous dites à des gens, quand nous invitons les riverains de certaines opérations, où vous avez des gens qui vous disent, moi, on m'a piqué le soleil, j'ai acheté le soleil, j'ai pas mis comme le vol... Moi, j'ai acheté ma tranquillité, j'ai pas envie qu'on me le vole. Je vous prie de croire que la densification, il ne faut pas la faire n'importe comment et pas n'importe où.
Je suis le premier d'accord.
Bon, au moins un point d'accord. Voilà. Monsieur Capelletti.
Donc juste, alors une petite aparté là sur ce que vous avez dit, mais très rapide, hein, sur le presse, on va dire, local. Sur l'article là, sur le numéro 1 de la plage de Carnon. Bon, c'est vrai que globalement, la plage locale, il y a des très bonnes individualités journalistiques, hein, très rigoureuses, etc. On en a les journalistes ici présents, par exemple. Mais c'est vrai que moi, ça m'étonne aussi, donc j'ai approuvé ce que vous aviez dit là en introduction. C'est-à-dire qu'on a des articles qui sortent sur des spéculations et qui desservent en fait toutes les parties prenantes. Et moi, tout le monde sait, on en a parlé ici, que moi, je soutiens le projet COST avec mes amis de droite, du centre, etc. Ah oui. Dans une optique d'élévation cohérente du niveau touristique de Carnon, parce que si ça tombe, on n'est pas content. Mais en fait, ce genre de spéculation dessert, du coup, les COST, parce qu'on se dit, mais Mme Zaonaro aussi, parce qu'on se dit, la mairie et surtout la commission d'appel d'offres qui a très bien fait son travail. Et effectivement, il est impossible de savoir quoi que ce soit. Et par ailleurs, il y a plein d'investigations qui ne sont pas faites. Moi, les bras m'en tombent. Par exemple, il y a des perquisitions qui ont lieu dans certaines mairies. On ne sait toujours pas où ça en est, etc. Et là, il y aurait du boulot à faire, journalistique. Voyez-vous ?
Alors,
par exemple, il y a des augmentations d'impôts qui sont votées en agglomération avec le soutien de personnes qui, par ailleurs, après, voudraient des baisses d'impôts une fois retournées dans leur mairie. C'est quand même très étonnant. Là, il y aurait beaucoup à faire, des articles, vous voyez, robustes, et j'invite nos amis talentueux, en fait, de la presse locale. Ben oui, puisque Sarkozy, ils ont perdu, je suis filloniste. Je fais mon coming out ce soir. Et, je suis le premier des sionistes. De toute façon, on est tous sionistes maintenant, voilà. Bon, voilà, donc ça, c'était un préambule.
Bah, juste sans vous interrompre, chose que je fais, mais ce n'est pas volontairement pour vous contrarier, ce qui n'est pas l'objectif de mon intervention, je précise que c'est insupportable les réactions que peuvent avoir certains médias ou certaines personnes dès lors que quelque chose qui est faux ou qui est inexact ou qui est imaginé a été divulgué. Moi, depuis que l'article est paru, on n'arrête pas de recevoir des coups de fil pour savoir pourquoi pas. Je reçois des coups de fil de gens de la CCI ou comme ça, ou de divers organismes, de chambres consulaires, pas forcément que de la CCI, qui me disent alors, ça y est, vous avez attribué, vous avez un match de rugby, ils disent alors, c'est les frères Coste, alors c'est Zaonero, c'est intolérable. Et je précise que le journaliste qui est assis ce soir à notre table n'est pas celui qui a créé l'article. Voilà, je peux le dire, pour pas qu'il y ait de méprise là-dessus. Je dis c'est insupportable. À la fin, merde.
Non, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de journalistes locaux qui sont talentueux et bourrés d'éthique, et puis sortent des choses sans être paranoïaques, je me demande à qui profite ce genre de crime, voyez-vous. Suivez mon regard. Alors, sur la fonte de Mobio, bah, effectivement, moi, je vais vous faire plaisir, parce que voulez-vous que je dise, hein, avec mes amis, on est dans l'opposition constructive. On n'est pas dans l'imprécation ou l'apocalypse. Et donc ça va dans le sens que nous on a toujours défendu, hein, c'est-à-dire un projet qui va dans un sens plus humain, plus gérable, donc une réduction d'un tiers global, quelles que soient les raisons, on passe de 31 à 19 hectares, on passe de 1100 logements à 700 logements, il y a un souci, une volonté de maintenir un esprit d'authenticité de village. Donc, nous trouvons que ça va dans le bon sens, incontestablement. Bon, ensuite, il y a toujours les points à surveiller, qu'on surveillera, et on travaillera avec vous dans cet esprit d'opposition constructive pour rouspéter si ces points n'étaient pas surveillés ou pris en main.
On sera dans la concertation.
Bien sûr.
J'ai pris cette année.
Oui. Donc c'est les logements sociaux, donc comme il va y avoir une densité forte, effectivement, pour rattraper le retard que nous avons, bah, il faudra, par des négociations avec le préfet, mais j'ai cru comprendre qu'on allait dans ce sens-là, effectivement, que ces logements soient fléchés en priorité vers les Medgoriens. Bien entendu, les travaux d'infrastructure et de voirie devront être faits en conséquence, puisque malgré tout, si le projet est réduit et allongé dans la durée, il reste quand même conséquent. Et également donc tout ce qui va concerner les forces de sécurité et de police. Moi, je pense que je l'avais proposé avec mes amis sur la maison des associations. Je pense qu'il manque ici, ça pourrait être l'occasion d'y réfléchir, puisque c'est aussi l'avenir de nos villages qui deviennent des villes, des espaces de coworking et d'économie collaborative. Justement, dans les nouvelles zones comme ça, ça peut être tout à fait porteur. Et puis, bien sûr, la fréquence des bus, etc. Mais disons que globalement, sur le principe, bah, ça va dans le bon sens. Il y a des points à surveiller. Bon, un des premiers points que j'avais soulevé était aussi, effectivement, d'arriver avec les propriétaires terriens avec lesquels la mairie est en discussion, arriver, bien sûr, à des accords qui satisfassent l'ensemble des parties. Voilà. Hein, donc, oui, sur le principe. Et après, surveillons bien ces points. Voilà.
Très bien. Merci pour votre intervention, monsieur Capelletti. Monsieur Pradet, positif, merci.
C'était un commentaire sur monsieur Capelletti, c'était pas une injonction pour moi.
Je pense que vous êtes majeur et vacciné.
Bon, d'abord, j'ai mal compris l'intervention de mon collègue Capelletti qui s'est positionné pour le dossier Coste. Alors, je serais un peu choqué qu'un conseiller municipal se positionne favorablement pour des raisons politiques, puisqu'il a dit avec mes amis de droite, sur un marché. Les marchés des ascenseurs dans la région parisienne, c'est terminé. Hein, le gang du RPR, on ne fait plus. Hein, c'est pas la modernité, ça, M. Capelletti. Donc, j'aimerais qu'on ait un peu de réserve quand on est conseiller municipal de Mobio. Il ne faut pas politiser les dossiers de marché, qu'on respecte le travail de la commission.
Je dois lui répondre. à mon collègue.
Oui, cher collègue, je vous interpelle.
Cher collègue Pradel, je disais que nous étions favorables, puisqu'il faut reprendre la hauteur, puisque là tu es tombé bas. Donc si on reprend la hauteur, on est favorable, nous, à une élévation du tourisme, du niveau touristique, donc sur Moggio et Carnot en particulier, et que dans ce cadre-là, en déclinaison, le projet COST, alors qui est déjà le projet d'hôtel existe depuis très longtemps, donc voilà, mais dans la continuité de cohérence, oui, on est favorable effectivement à ce qu'il y ait une cohérence. Après, la commission d'appel d'offres fait son métier, on ne peut pas savoir ce qu'elle a fait, etc. Et on en a discuté. Donc, bien entendu, qu'il est normal, quand on conseille municipal, on prenne les options sur l'axe touristique qu'on compte donner à Carnot et à Moggio, et ça se décline après par des projets concrets. Donc tu joues à être choqué, en fait.
Non, moi, les consignes à la commission d'appel d'offres, c'est...
Mais elle a eu lieu, l'appel d'offres.
Oui, mais fait, bon. Ce petit aveu, là, sur des prises de position, n'est pas tout à fait déontologique. C'est mon avis.
Je ne suis pas d'accord.
Bon. Ça a eu le mérite d'avoir une discussion au conseil municipal.
Moi, je suis transparent.
Oui, mais faire la transparence dans cette direction-là, c'est pas bon. Hein, pour la...
Moi, je suis transparent.
Alors, on revient, s'il vous plaît, au sujet de l'aéroport de Moggio, avec une Olympide, j'espère. Oui, avec une Olympide. Moi, je suis transparent pour les membres de la commission. Je leur ai pris moyen. Moi, je ne suis pas membre de la commission.
Mais la commission a eu lieu, Laurent, arrête.
Je reviens sur la fond de Moggio, monsieur le président. On va essayer d'avoir l'esprit de Noël. Supposons que ce ne soit pas un dossier politisé qui nous permette de dire « Ah, vous avez mal piloté les affaires ». Donc, supposons qu'on écarte ça et qu'on voit les enjeux. Bon, moi, il y a un sujet à une construction, si on est au tiers, entre 150 et 200 logements sociaux. C'est ça l'enjeu, donc c'est autant que le parc.
Le seul des logements sociaux.
Donc c'est un enjeu qui est important et qu'il faut regarder avec sérieux. Donc,
je précise que le logement social, c'est 8 personnes sur 10 qui sont éligibles au logement social. Vous connaissez au fondamental.
Donc là-dessus, si on dépolitise le dossier, c'est un enjeu pour la ville. Si on a une analyse des finances de la ville, j'ai eu des chiffres que je ne suis pas capable, moi, de vérifier sur les enjeux d'engagement de la ville. Si on est entre 5 et 10 millions, c'est déjà une très belle somme. Sachant qu'en 5 ans, on a fait un effort de 500 000 d'économies. Quand vous faites le ratio, c'est quelque chose de très très important. Moi, je ne suis pas positionné je ne suis pas votre analyse quand vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait une croissance de la population de Moggio. Parce que souvent, on confond la croissance de la population de Moggio avec oui, il ne faut pas qu'il y ait de nouveaux arrivants, on est villageois, c'est super. Non, on a des gosses et nos gosses ils vont se loger. Donc, on a une croissance mécanique de la population de Moggio. Je suis rassuré, nos gamins pourront aller se loger à Saint-Onès. Merci, madame la maire de Saint-Onès. Mais enfin, bon, je préférerais qu'on les loge nous-mêmes. Donc ça, il faut l'accompagner. On a un problème social qui fait que nos gamins ne veulent pas se loger parce que le prix du mètre carré est trop cher pour les jeunes couples. Et notre vieillissement, il est dû à ça. Et nos fermetures d'écoles sont dues à ça. Donc ça, c'est le... ça, c'est la base. Donc, il y a des enjeux. Si on prend ce qui était votre sensibilité au mandat dernier et votre approche maintenant, vous faites une étude pour savoir si on ne peut pas avoir une réflexion pour mobiliser le cœur de ville, le densifier, utiliser les logements vacants, voir comment on peut avoir un urbanisme moderne et efficace. Donc ça, c'est bien. On a un PLH qui est plus intéressant que qu'il y avait jusqu'à présent, y compris l'effort que fait Moggio sur le logement social par rapport aux autres communes. Donc ça va dans le bon sens. Donc moi, je suis plus à l'aise. On se retrouve à peu près à être approchant, si on reprend notre acte respectif, où à l'époque, M. Cassard disait on préfère payer l'amende plutôt que de... plutôt que de faire du logement social. C'était dans la tribune de décembre avant les élections, M. Cassard, sous votre signature. Si, si, on préférera payer l'amende. Vous ne lisez pas vos tribunes. Moi, je les lis. Donc, on est, si tout le monde veut faire du logement social, c'est plutôt bien.
Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser dire que j'étais contre le logement social. Je n'ai jamais été contre le logement social.
Non, vous avez dit que vous préféreriez... que vous préféreriez payer l'amende plutôt que de vous mettre à la hauteur de la loi SRU qui était mauvaise loi. C'était ça votre... Mais je vous produirai votre article. Ça va nous revenir.
Tout.
On peut changer de toute façon. Hein.
Oui, c'est très bien.
Je ne dis pas que je suis d'accord avec vous. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Je suis d'accord.
Voilà.
Mais je ne pense pas que vous ayez raison dans ce que vous disiez.
Mais c'est juste un travail d'archiviste, c'est le mois de décembre avant les élections.
J'attends avec impatience l'article.
Okay. C'est un travail d'archive. Je pense qu'on est malgré tout, de nos échanges, on est approchant sur la vision d'un développement équilibré de Mondiaux. Par rapport à la fond elle-même, techniquement, là, vous nous demandez, est-ce que vous votez, on démarre, on continue, on accélère, ainsi de suite. Moi, si on a quand même plusieurs demandes comme vous avez faites. Moi, je vous ai demandé les études pour savoir quelles étaient... je veux pouvoir voir la réalité des études d'Hydro, pour voir ce qui est faisable. J'aimerais qu'on ait une vraie discussion sur les aménagements qu'on fera, parce que j'ai entendu une fonctionnaire... dire qu'il y en avait pour 5 millions d'euros. C'est la première fois que j'entendais une position officielle.
Les supputations allaient de 3 à 6 millions d'euros. Nous avions inscrit, et vous êtes l'observateur averti, M. Pradeille, nous avions inscrit 3 millions d'euros, un payé par la commune, un payé par l'opération, et un en subvention. C'était la solution minimaliste, au moins 3 millions d'euros. Voilà. Alors, en admettant qu'il y ait un petit peu d'emphase dans la prévision et un petit peu de pondération dans ce qu'on payera, je peux vous dire que l'affaire passe du simple au triple ou du simple au quadruple. Oui, c'est une réalité. Allez-y.
Moi, si vous voulez, on a plusieurs dossiers. On a les échanges avec la préfecture, donc j'imagine que la préfecture va signer quelque chose. Donc ça sera un document important, ça. Elle nous donnera un avis, donc ça c'est... On devrait se positionner là-dessus. Moi, j'aimerais savoir quelle est votre projection en termes de travaux hydrauliques, parce que c'est très intéressant de savoir où est-ce qu'elle les fera, ainsi de suite. Le zonage est quelque chose de très important, parce que vous nous faites délibérer aujourd'hui sur 19, mais vous aviez fait une diapo, alors c'était peut-être une faute de frappe, à 17 hectares, le soir de la Réunion.
Non, c'est pas une faute de frappe. Monsieur Pradeille, les 17 hectares... font partie de la ZAC existante. Les 2 hectares que nous rajoutons sont les 2 hectares d'un terrain que nous avons acheté, le terrain moignier. Voilà, 17 et 2 hectares. Je précise que nous aurions pu, si on avait été têtu, foncé tête baissée n'importe comment, dire on va reproduire 30 hectares au niveau des zones qui sont déjà ZADées au nord, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons fait une analyse de la situation, une analyse raisonnable, toujours respectueuse des équilibres. Et le plan sur les aléas modérés, je vous avais dit, voilà à peu près comment ça va être. On en avait parlé, Bernard.
Oui, les 19 hectares en question, on les a expliqués à la Réunion. Mais comme vous êtes arrivé en retard, vous avez pas entendu.
Ouf, Bondo, j'ai eu 5 minutes de retard, vous en avez dit des choses intelligentes dans mon absence. Mais monsieur le vice-président de la commission d'urbanisme, si on est un peu sérieux, on a eu une commission d'urbanisme juste avant cette réunion publique et on n'a pas abordé la question au fond du dossier. Donc si vous voulez...
Ça n'était pas à l'ordre du jour de la commission d'urbanisme, monsieur, je suis désolé.
Mais je ne vous reproche pas de ne pas avoir suivi votre du jour. Je vous reproche qu'il n'y ait jamais au niveau municipal, vous le faites peut-être ailleurs, mais au niveau municipal, sur l'ensemble des questions qu'on a ensemble, c'est-à-dire la programmation budgétaire pour l'hydraulique, la cartographie exacte des enjeux...
Monsieur Pradeille, je vous regarde bien, pratiquement aucun membre de la majorité de mon groupe n'avait connaissance une semaine avant
du projet finalisé tant qu'on n'avait pas la lettre de monsieur le préfet. Et ça, je peux vous l'assurer sur mon honneur. Merci. Si vous pensez que j'ai l'honneur. Voilà.
Merci.
Voilà.
Mais la question ne se pose pas, monsieur le maire.
Voilà. Non, non, mais je tiens à votre disposition le PowerPoint, si vous voulez. Non, on vous a donné quelques informations. Vendredi, c'est vrai que c'était pas du jour, on n'avait toujours pas le courrier des préfets. On l'a reçu la veille. Et le courrier, tenez, le jour même à midi. Je vous le ferai lire. Il est daté du 12 décembre.
Non, mais je ne suis pas dans la. Je ne suis pas dans les modalités.
Vous dites simplement qu'on vous cache des choses.
Non.
On n'a pas révélé ce qu'on ne pouvait pas révéler.
Non, mais je ne suis pas en train de. Je ne suis pas dans la polémique.
Mais non, mais je le prends pas mal. Hein.
Si vous me demandez là, de dire allez, go, on y va. Mais raisonnablement, la question budgétaire, la question des engagements, la question de la cartographie exacte, la question de l'hydraulique, tout ça, ce sont des questions qui sont assez importantes pour qu'avant qu'on ait le go et qu'on vote favorablement à votre demande, enfin, quiconque est un peu raisonnable dans l'étude des dossiers, vous demande ces éléments supplémentaires pour pouvoir vous accompagner. Si je voulais, changer de priorité et dire, bon voilà, il y a ces priorités-là, on est approchant, combien de poids faire sur le social, je peux vous accompagner. Si je voulais changer de priorité, je ne suis pas en situation, là, au vu de ça. Donc je vous donne les conditions pour qu'on soit mieux approchant. Sur la question de l'aléa, fait le légendage des aléas, j'ai pas très bien compris la légende. J'ai pas compris si c'était.
Ce qui était marron, c'était ruissellement, submersion forte. Ce qui était bleu, c'était aléa modéré.
Donc l'aléa modéré.
Vert, pardon.
Voilà. Donc le vert, c'était quoi?
Vers aléa modéré.
Aléa modéré. C'est-à-dire que quand on dit aléa modéré, ça veut dire moins de 50 cm.
Oui. Bon. Et ce n'est plus constructible.
Donc ça, on sait que on l'a dit plusieurs fois, c'est les zones où il y a de quoi noyer un chien. Quoi. Si vous noyez
on est
un caniche, vous le noyez.
On est d'accord,
c'est ça. Donc ce n'est pas des zones où il y a péril extraordinaire, mais c'est les zones où on bousille les voitures. Où il faut faire ça. Donc, bon. Et les zones, et pour le coup, les zones oranges,
c'est plus de 50 cm.
Plus de 50 cm.
Bon. Donc là, si vous voulez, ça mérite quand même qu'on regarde un peu sérieusement, carte de surtable.
Ça, monsieur Bonnet, on avait imaginé d'y faire les 10 hectares dédiés au vert, à tout ce qui était vert. Avant, dans le projet, à 30 hectares. Aujourd'hui, tout ce qui est orange est sorti. C'est ça, hein, qui tangente la faune de Mondio. Ça, c'est un autre. Tout ça, tout ce qui tangente, voilà, c'est du ruissellement, ça reste dans l'opération pour ce qui est acheté, et ça sera dédié à la nature, au jardin partagé, on y fera du poney, peut-être, on n'en sait rien, mais on n'y fera pas du tout de l'habitation.
Et tout ce qui est blanc, il n'y a pas d'eau, c'est sec.
Voilà. C'est la modélisation de des 17 plus 2 hectares qui sont urbanisables.
Ça mérite qu'on ait un vrai travail de conseiller municipal, qu'on le regarde dans le détail, qu'on regarde où vous allez mettre vos...
Je vous dis, monsieur Prodeil, que nous sommes passés par des fourches codines quand même,
oui.
Et de l'étude et la validation par la DDTM que nous avons eue le jour même de la réunion. Voilà, c'est tout.
Je vous parle
pour le chemin.
Moi, supposons que, Laurent Capelletti a dit très, et dit, bon voilà, le projet se reconfigure, il faut en tenir compte et il faut accompagner la reconfiguration. Ça pourrait être une position, ça. Ça peut être une position politique. Moi, j'y vois en plus un enjeu d'opportunité en logement social. Donc, c'est cumulatif. Mais je suis bloqué sur... Il y a des enjeux budgétaires, il y a des enjeux hydro, il y a des enjeux d'emprise. Quand ça sera levé, qu'on aurait vraiment pu étudier le dossier, là, je peux pas me positionner. C'est trop léger pour me positionner, sinon je ne suis pas sérieux. Il y a trop d'enjeux. Donc, ce sont les questions qui font que il y aurait une commission
Il y aurait une commission urbanisme avec ça à l'ordre du jour, ça serait pas indigne, monsieur le vice-président.
Je suis d'accord avec vous, mais la commission qu'on a eue avant, elle n'était pas consacrée à ça, je suis désolé.
Donc, oui, mais le fait qu'il y ait une commission urbanisme avant cette question-là soit à l'ordre du jour de notre conseil, ça ne serait pas déniant.
Je voudrais, si c'est permis, Laurent, faire une petite réponse à Laurent déjà, pour ce qui concerne le logement, après j'arrête. Je ne serai pas long. Concernant le logement social, 200 logements sociaux, ça ne t'exonérera pas de l'amende, premièrement.
Parce que ça pour le vent, pas pour l'amende.
Ça ne te fera pas. Non, mais je le dis. Non, parce que c'est interpellé sur l'amende. Donc ça ne fera pas, je veux dire, ça ne fera pas rattraper le retard.
Oui.
C'est indiquable. Et 200 logements sociaux, moi je peux te les faire dans mon bio et Carnot en 3 ans sans rien construire. Voilà. Moi, c'est mon métier immobilier. Monsieur Bourrel, si vous ne saviez pas, j'ai été promoteur immobilier pendant 25 ans. Bien. Ensuite, je voulais savoir, par rapport à l'étude hydraulique, c'est pour ça que j'aurais aimé qu'on l'ait, parce qu'il y a les zones inondables, inondables modérées, tout ça, mais quel est l'impact, même des zones blanches, qui servent de ruissellement pour éviter, pour contourner les autres lotissements qui existent. C'est ça qu'on a besoin de savoir. Si ça s'inonde là, l'eau elle passe là, elle vient se protéger là, parce que là, c'est pas goudronné, parce que là, c'est pas bétonné. Donc les lotissements qui sont là et là, ils ne sont pas inondés parce que cette zone sert de tampon, de ruissellement et d'expansion naturelle. Est-ce que l'étude hydraulique parle de tout ça?
Monsieur Bourguet, bien entendu, vous êtes en train de faire une large périphrase pour expliquer ce qu'un document officiel qui va vous être communiqué et qui s'appelle le porté à connaissance de l'État va déterminer. Je n'en suis pas le producteur, je n'en suis pas l'organisateur, donc l'ordonnateur. Donc c'est l'État qui va nous donner ce porté à connaissance, et je dirais même plus fort. Le porté à connaissance de l'État va définir, aujourd'hui, il définit tout comme urbanisable. Pour le moment, on peut y aller. C'est quand ça va être publié que là, c'est la responsabilité de l'État, dans le cadre d'une information que nous avons donnée, on vous donne, de toute façon, la carte, vous l'avez, vous l'avez photographiée, elle est sur votre site. Donc,
oui, non, mais
vous l'avez de manière officieuse.
Nous aussi, on l'a de compris. C'était pour expliquer qu'il n'y a pas que le problème des zones en elles-mêmes inondables où les gens ont les pieds dans l'eau. C'est la protection que ça fait pour les zones périphériques qui sont déjà construites.
C'est la raison pour laquelle il y a des travaux hydrauliques qui seront commandités à hauteur d'un million d'euros environ, qui permettront de prévenir tout risque de ruissellement d'inondation de ce qui est à côté, et qui permettra l'écoulement des eaux de manière satisfaisante, comme l'étude de la... De toute façon, le dossier va être suivi d'une étude d'impact. Il va y avoir un dossier sur l'eau. Il va y avoir toute une démarche officielle, traditionnelle, mais le préfet, sur la base du PPRI et du porté à connaissance, nous dit ça, on n'autorisera pas à le faire. Aujourd'hui, nous, et je vous donnerai sa lecture de son courrier, voilà, l'ensemble de l'aménagement... Alors, je vous lis la dernière phrase. Les dernières phrases. Le périmètre d'aménagement de la faune de Moguio doit donc être réduit par rapport au périmètre initialement défini. L'ensemble de l'aménagement de la faune de Moguio devra faire l'objet d'un dossier d'eau sur l'eau, produit par la commune et instruit par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, DREAL. Il intégrera, selon les principes précités, la connaissance de la zone inondable établie par l'étude d'Ingérop. Il devra également traiter des compensations à l'imperméabilisation mise en œuvre pour l'aménagement projeté. Voilà. Là-dessus, je crois qu'on peut clore le chapitre. Monsieur Santapo, qui a pas eu la parole, je vous donne la parole.
Alors, par rapport à cette délibération, en fait, étant donné que le futur PPRI, je ne le connais pas, il est évident qu'en tant qu'élu de l'opposition, je n'ai vu aucun document ou officiel pouvait me positionner favorablement par rapport à cette délibération. Voilà. Donc, je peux être comme Saint Thomas, croire, et c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est étant donné que j'ai rien dit, je ne vais pas me positionner là-dessus.
Le porteur connaissant se dira ce que le PPRI prescrira. Monsieur Capelletti. Moi non plus, je ne l'ai pas vu.
Oui,
je ne l'ai pas. Je ne peux pas me produire un document que je n'ai pas.
Nous, sur le par rapport à mes collègues, donc sur le projet alternatif qu'on défendait, qui était en fait en gros moitié moins, c'est-à-dire 16-17 hectares et puis 600 logements,
Sur le principe, c'est sur le principe là ce soir. J'entends bien qu'ensuite, et moi j'ai repéré les points de détail sur lesquels je serai vigilant, je ne vais pas les rappeler. Sur le principe, ça se rapproche tellement de ce que nous, nous avons défendu que je répète que moi je vous suis là-dessus. Juste trois points. Le premier point, comme on a parlé, et en particulier mon ami Laurent, donc quand est-ce qu'a lieu justement le vote sur les résultats de la commission d'appel d'offres du lot 1 ?
Le 23 janvier.
Bon, là, il faudra bien voter.
Oui.
Voilà. Donc, là, tout le monde à cette occasion sera transparent. Voilà. La commission, elle a bien eu lieu.
Oui. Déjà.
Mais c'est même plus que ça, elle a même eu lieu l'an dernier.
Oui.
C'est-à-dire que ce que j'ai dit ce soir, en fait, je l'avais dit l'an dernier.
Non. Il y en a une qui a eu l'an dernier qui n'a pas été validée par le monsieur.
Ah, voilà, c'est ça. D'accord.
Et il y a eu une relance de la.
Voilà, mais on en avait débattu déjà par rapport au choix, etc.
Oui, 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 bon, oui.
C'est pas ce que je voulais entendre dire. Le deuxième point, c'est que je remarque donc, grâce à Laurent, que M. Cassard peut changer. Et ça, c'est un point important. Parce que si vous pouvez changer, et je vous suis,
je vous suis
là-dessus, vous pouvez peut-être changer sur d'autres sujets, dont l'agglomération. Mais bon, on en reparlera. Et le troisième point, c'est que, effectivement, en dernier ressort sur le principe, c'est vrai que, bon, moi, on a beaucoup d'amis qui disent, mais pourquoi accueillir, pourquoi grossir, etc. C'est vrai qu'il y a des contraintes que, bon, qu'on a tous rappelées, hein, et vous le premier. Mais il y a aussi le fait qu'il ne faut pas qu'on perde non plus cette bataille d'une croissance démographique minimale par rapport aux communes qui nous entourent, et aussi pour les raisons que vous avez rappelées, de vieillissement de population, etc. Voilà.
Et elle se fera avec une offre. Pour les personnes qui aujourd'hui sont exclues du logement, elle ne se fera pas avec du résidentiel, il y aura du résidentiel, mais elle se fera aussi avec du logement abordable.
Mais c'est pour ça que j'aurais aimé peut-être vous entendre une prochaine fois sur les logements sociaux, comment vous allez faire pour les flécher en discutant avec le préfet vers les Magoriens, parce que ça c'est un point qui est très important.
Jusqu'à présent, M. Capelletti, nous avons eu quasiment les trois quarts des affectations et parfois beaucoup plus. Puisque nous exigeons de la part des porteurs de projet la désignation d'un bailleur social avec lequel nous nous entendons préalablement pour la manière de travailler les dossiers. C'est-à-dire que pour telle ou telle opération que nous sommes en demande d'une certaine typologie d'appartement, nous demandons au promoteur d'organiser la configuration de son opération en fonction des besoins. Et je rappelle qu'il y en a 182 qui attendent à Mouliou, il y a 182 demandes et que au CCAS, donc, on a une critérisation des affectations qui se fait sur la base de données objectives qui permettent justement de retenir la plupart des dernières attributions ont été faites au bénéfice des Maigoriens. Je peux vous dire qu'on en a eu 20 sur 23.
C'est-à-dire que 3 fois 7, 21, il y a 210 logements sociaux sur les 700, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ça veut dire que quoi, 80, 90 pourraient être fléchés sur des Maigoriens s'il y avait la demande.
Plus que ça.
D'accord.
Plus que ça. Plus que ça. Les anciens ateliers municipaux, sur 33, on en a eu 32.
Et ou autrement dit, ne pas les faire, ce serait ne pas répondre à ces demandes.
Absolument. Absolument. Merci de me permettre de le dire. Une dernière réaction, et puis nous passons au vote. Si vous voulez, ce soir, moi, je ne vous accompagnerai pas sur ce vote-là. Mais par contre, je pose des questions ouvertes en disant, il y a la question de la densité. Sur ces 17 ou 19 hectares, la question de 700, est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est trop peu? Je n'ai pas d'éléments pour pouvoir... Parce qu'il y a peut-être une... En première analyse, on peut dire que ça crée une surdensité par rapport au projet précédent. Deuxièmement, je suis très intéressé par l'étude d'urbanisme globale sur l'urbanisme à Mouliou. Ensuite, l'étude hydro fera bien le jour que vous la montriez. Donc c'est une question importante. Qui implique
la thèse sera faite?
Qui implique Alors eux, ils les ont, mais elle n'est pas faite. Hein. Ils ont les plans, mais pas faite. Hein.
Non, mais on a le dossier des Girons qui est à votre disposition.
Bon, mais vous l'avez déjà vu.
Celle avec la
grille. Non, mais je veux... La tête blanche et mouchoir, madame.
Celle avec la grille.
Ah, je veux la lire, monsieur le maire.
Il y a rien à lire.
C'est que des
images. Donc quand j'aurais vu, c'est que des images.
C'est comme un Playboy.
Donc il y a cette question-là. Il y a la question aussi.
Non mais. Dis pas de la paix.
Il y a la question aussi de. Il y a deux autres questions que je n'ai pas vu de réponse. Et je pense que c'est deux sujets qu'il faut lever. C'est la question des transports. C'est-à-dire les modalités de répartition de transport, des transports doux. Je vous avais soulevé la question que l'étude à la base vous disait, votre propre cabinet vous disait qu'il fallait que 80% de ces nouveaux arrivants utilisent les transports en commun ou les transports doux pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc oui, non, c'est un problème. Je maintiens 80. Donc, mais la question de savoir comment on fait les transports en commun, comment on fait les transports doux. Et la dernière question, c'est la question du commerce en cœur de ville. Et je ne suis pas sûr que votre majorité ait une vision rassemblée sur cette question. Parce que certains me disent qu'il n'y a pas de problème dans le commerce en centre-ville. D'autres me disent que s'il y a un problème et que ça nécessitera un phasage au démarrage. Donc ça là-dessus, je voudrais qu'on soit très très mûr. Donc ça, c'est l'ensemble des questions qui sont posées. Qui permettrait un meilleur accompagnement politique de nos actions.
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le partage de ces préoccupations. Vous avez une subtilité à un petit peu détourner les choses, que je remets à leur place. S'il est vrai qu'il a été établi que 80% des gens devraient prendre le transport collectif pour idéalement éviter quelque encombrement que ce soit, il a été dit dans le projet que nous aimerions que 20% des gens qui habiteront prennent le transport collectif, puisque les 80%, ça aurait été pour équilibrer ceux qui sont des gens qui ne prennent pas le transport collectif. On parle de deux choses différentes. Dans l'idéal, vous dites, le cabinet disait, il faudrait que 8 sur 10 prennent le transport collectif, ça ne poserait pas de problème. Mais nous, on a dit, bien joli, si on avait. On aimerait atteindre 1 sur 5. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez parlé.
Je pense que c'est votre cabinet qui a raison. Hein. Je pense que vous avez tort en faisant ça.
Deuxièmement, pour le commerce. Pour le commerce, on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème de commerce en centre-ville, parfois pour le petit commerce, pour la petite distribution. Tout à l'heure, je me suis réjoui que des journées commerciales, des journées de Noël, quand elles sont bien structurées, quand elles sont bien accompagnées, quand on a des acteurs de la profession qui s'y mettent avec la commune, c'est l'argent public, on arrive à de belles choses. Nous avons dit, le commerce qui s'installera ne sera pas un commerce d'une manière concurrentielle. Nous veillerons à ce qu'il y ait une complémentarité. Il y a une concertation avec la grande distribution et les petits détaillants, comme elle a eu lieu pour l'agrandissement du Lidl, où par exemple le Lidl voulait agrandir à 1400, voire 1700 mètres carrés, que nous avons refusé et que nous avons dit, jusqu'à 1200 mètres carrés, nous sommes d'accord. En accord avec la profession, on ne peut pas quand même empêcher à une commune de progresser. Quand vous avez un centre commercial qui est mal placé et qui propose de changer d'endroit et qui propose en plus de permettre un aménagement routier bénéficiaire à tout le monde, moi je ne peux qu'être pour. Et si Intermarché de même demande d'agrandir un petit peu parce qu'il a besoin d'agrandir, si ça se fait d'une manière raisonnable comme ça s'est fait par le passé, pourquoi pas? Quand les tours s'est installé, quand on a fait la Louvade, on n'a pas empêché les tours de s'installer. Ça s'appelle la libre concurrence. Mais au niveau des équilibres, nous avons toujours veillé, en concertation avec Mme Wintrafort et toute l'équipe, nous avons toujours veillé à ce que l'offre qui était déployée dans l'instruction des permis ne soit pas de nature à déséquilibrer les zones de chalandise que nous connaissons. Et je dois dire que jusqu'à présent, nous arrivons à faire, j'allais dire, pour le mieux. Il y a des petits commerces qui s'installent dans la périphérie du cœur de ville. Petit à petit, nous arriverons aussi par peut-être faire prendre d'autres habitudes aux Melgoyens, encore nommées celles de marcher à pied, puisque c'est tellement salutaire que certains payent pour les bonnes salles de gym. Eh bien, peut-être que marcher et perdre quelques rues piétonnes de temps en temps, et laisser la bagnole là, on la laissera, on fera une zone de covoiturage à la cave coopérative là-haut, et vous verrez que peut-être les habitudes changeront. Je dis que le commerce est une préoccupation que nous avons, mais, monsieur Pradel, dans la symbolique. Un jeune couple veut avoir un enfant. Il a cet enfant. Quoi de plus merveilleux? Est-ce que vous posez des questions? Qui c'est qui va payer les couches culottes? Qui c'est qui va payer son éducation? Le reste, ça vient après. Évidemment que nous mettons tout en œuvre. Et vous y contribuez, dans la contradiction parfois, dans la proposition souvent. Donc, je vous invite. Oh, je ne vais pas vous faire changer d'avis, vous n'allez pas vous déjuger. Mais je ne désespère pas.
Pour le reste, il reste 5 minutes de plaisir en moins.
Voilà. Allez. On passe au vote. Si, alors, je relis la proposition de... Je vous demande d'approuver les objectifs poursuivis dans le projet d'aménagement, d'engager la concertation préalable à ce projet sur les modalités exposées, de charger le maire, de me charger de mener la concertation, de préciser que la concertation se déroulera pendant toute la durée de l'élaboration de l'opération d'aménagement des habitants, des associations locales et autres personnes concernées. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je relèverai les noms de ceux qui viennent aux ateliers participatifs. On continue avec le sujet suivant qui est l'approbation de la convention d'anticipation foncière de l'établissement public foncier. Alors, vous savez que depuis 2008, il y a un organisme qui vous prélève, non pas sournoisement parce que c'est écrit, un petit peu d'argent sur votre taxe foncière tous les ans. Cet établissement s'appelle l'établissement public foncier. Il est chargé, avec le prélèvement et le collationnement des sommes qu'il récolte, de proposer une politique d'intervention foncière au bénéfice des communes dès lors que l'État et les communes, l'État approuvent la politique foncière, que ce soit pour les zones d'activité économique, que ce soit pour les zones d'habitat. Donc il est proposé que l'établissement public foncier nous aidera, et sur la faune de Mongio et sur d'autres opérations, pour porter gratuitement pendant la durée de l'opération, 8 ans environ, même des fois ça peut aller au-delà, le prix du foncier, qui est ensuite racheté par la commune au prix où l'établissement public foncier l'a acheté. Voilà. Donc c'est une convention d'anticipation foncière d'une durée de 5 ans, voilà, que je vous propose, en sachant que le portage par l'établissement public foncier, nous avons rencontré son directeur, M. Lemoine, et je précise que, M. Bourguet, vous le savez, c'est notre ami Duprat, qui est président de la commission, qui est le président de l'établissement public foncier. Voilà de quoi qui devrait vous réjouir.
Oui, ça me réjouit pas plus que ça. Hein.
Ah bon?
Non, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi cette solution. Est-ce que parce que bon, jusque-là, c'est leur aménagement qui avait racheté les terrains. Pourquoi vous changez le fusil d'épaule? Est-ce que leur aménagement n'a plus les moyens de continuer le travail?
Monsieur Bourguet, quand on peut faire mieux, ça ne va pas. Aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle l'établissement public foncier, qui déjà intervient pour d'autres communes.
Oui, je sais ce qui
est. Et pourquoi le défi? Alors vous préférez que l'opération se voit chargée par des... Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez ajouté au prix le prix du notaire, le prix de la contractualisation, le prix des assurances et invalidité d'essai, et ainsi de suite. Voilà. Quand quelque chose de gratuit.
Mais in fine,
moi ça me parle.
In fine, le PF, il vous fera payer tout ça quand même.
Pas du tout, monsieur.
Bien sûr.
Absolument pas.
C'est marqué dans la convention.
Qu'est-ce qui est marqué? Lisez-le.
Qu'à la fin, vous rachèterez en rajoutant tous les frais qui auront été induits par l'opération.
Quels frais?
Ben, tous les frais dont vous venez de parler. Je ne sais plus à quelle page c'est marqué.
Si vous ne savez plus, trouvez-le. La vocation de l'EPF, justement, c'est de faire un portage gratuit au bénéfice des collectivités. Voilà. Ne réchirez pas, je vous déconseille. Monsieur Prodeil.
Moi, je suis très favorable. On en avait parlé plusieurs fois. C'est un problème qui était mis en place par le camarade Guesso et le camarade Fraîche à l'époque pour avoir une politique de logement un peu efficace pour briser cette malchance qui est le prix de mètre carré trop cher et pour pouvoir intervenir fort pour pouvoir aider les petites communes.
La même mise des promoteurs, vous pouvez le dire.
Oui, je voulais pas le dire comme ça, je le dis camarade, je vois que je vois qu'à leur contact, vous allez dans le bon sens.
Je vois que quand je fais une suggestion, de temps en temps, vous les suivez. Je ne les espère pas.
C'est bien. Donc c'est un très bon outil qui permet de soutenir les communes qui n'auraient pas les moyens forcément de faire les portages et qui permet de faire un meilleur portage et plus de portages aux communes qui ont déjà un plancher cette solution. Ça permet aussi en ingénierie, sur le logement social, d'aller vers plus d'aide à la pierre. Parce qu'ils savent où sont les programmes et ils ont une ingénierie qui nous permet de récupérer toutes les aides à la pierre dans les meilleures conditions. Donc c'est, moi je suis très, sur les questions de logement social, je suis très très favorable à cette coopération qui se fait maintenant. On aurait pu la faire avant, mais maintenant régalons-nous. Il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas.
Très bien, merci.
La commune supportera la totalité des charges et cotisations générales ou spéciales, ordinaires ou extraordinaires, afférentes aux biens dont la gestion et la garde seront transférées.
Mais le PF ne gagnera rien là-dessus.
Il n'y a pas le portage.
C'est pas les intérêts, monsieur Bourguet. C'est pas les intérêts.
C'est pas les intérêts, puisque c'est l'impôt qui est.
Bien. Donc, monsieur Santapo.
Oui. Dans l'horizon du document, là. Il est dit que le PF allait en faire des études à nouveau et ces études, il va falloir à nouveau repayer parce que c'est à nouveau des nouvelles études.
Quelles études ?
Il me semble bien que ça a eu la convention.
On vous dit, la commune s'engage à élaborer un programme d'études avec un échéancier de réalisation. Un programme d'études, ça veut dire qu'on va regarder quels sont les terrains à acquérir, quand est-ce qu'on en a besoin, et comment l'EPF va essayer de négocier à l'amiable avec les propriétaires qui n'ont pas encore vendu. Je précise quand même que c'était jugé en cour d'appel de Marseille et que le prix de mètre carré était fixé à 23 euros. Voilà. Et que l'EPF va essayer d'aller à l'amiable et que l'EPF dispose d'un droit de préemption mandaté par la commune si toutefois les personnes ne veulent pas vendre dès lors que la ZAC a été approuvée par monsieur le préfet. Parce que là, c'est, pour le coup, c'est une DUP, c'est une déclaration d'utilité publique.
Et de même, la réalisation des travaux de mise en sécurité, elle est prise en charge par l'EPF.
Travaux de mise en sécurité.
À réaliser, si nécessaire, les travaux de mise en sécurité des sites acquis par l'établissement physique dégradé. Démolition de bâtiments, nettoyage, fermeture, etc.
Oui, mais là, ce sont des terrains nuls, on n'en a pas.
Les études techniques s'y rattachant, etc. Et tout ça était.
En fait, l'EPF validera des terrains qui sont dédiés à une zone constructible et pas n'importe quoi. Comme quand la SAFER fait des remembrements pour les agriculteurs. Elle vérifie d'abord l'opportunité, le bien fondé de l'achat. Et ça, c'est le préfet qui le conduit sous l'autorité de monsieur le préfet. Enfin, pour une fois qu'on a quelque chose qui est gratuit, ou presque, enfin, pour une fois, c'est... On a cet outil. Quoi.
Ce qu'il y a, c'est que le raménagement avait commencé le travail, quoi, et là, on se retrouve à changer d'intervenant. Quoi. Et après, derrière, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on aura la même mise sur le projet de la même manière qu'on l'aura avec le raménagement ?
Oui, l'EPF achète pour le compte le raménagement, travaille pour le compte. Elle a une concession d'aménagement, une convention, on a signé un traité de concession qui définit les engagements de l'ordonnateur qui est la mairie, le conseil municipal de Mouriot, pour le compte duquel elle travaille. Et l'EPF, lui, se charge de fournir les munitions à leur aménagement, si je puis dire, pour préparer ce projet, pour abonder ce projet de ZAC dans les conditions qui sont définies. Mais je veux dire, n'y voyez pas, si en 2006 l'EPF avait existé, on aurait attaqué avec l'EPF, on aurait dit, écoutez, faites-nous le portage, on aurait été bien bêtes à cette époque-là, de consacrer pratiquement 1 million d'euros pour acheter les 3 terrains à 20 euros le mètre carré à M. Richard, à M. Bolida et le troisième, M. Bonal, voilà, Camille Bonal, voilà, on aurait été bien bêtes, hein. Ça n'existait pas. Donc la commune a acheté les terrains. Ensuite, quand le traité de concession a été signé avec leur aménagement a acheté les terrains à la commune qui a récupéré 100 000 de fonds et elle a continué ensuite les acquisitions. Aujourd'hui, on est dans une situation où monsieur le préfet, conscient quand même de l'embarras dans lequel il nous met, et quand je dis embarras, ça commence par embarras, mais c'est plus que ça. C'est plus que de l'embarras. C'est-à-dire que quand vous accompagnez une commune, que vous dites que vous êtes d'accord pour la création d'une ZAC, que c'est sur un terrain urbanisable, sur un PLU qui est valide, de 2006, et qu'au bout du compte, au moment où vous êtes prêt de conclure, on vous dit finalement, je change les règles du jeu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire d'avoir 5 ou 6 millions investis pour l'achat de terrain ? Évidemment, ça ne pourrait pas être inconséquent si on savait. Si on savait certaines choses, quand vous êtes dans un un match de rugby, on ne change pas la règle du jeu à la 78e, 79e minute, ou un match de foot. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, non, mais l'État change souvent la règle du jeu.
Alors, à ce moment-là, monsieur Saint-Apo, vous ne pouvez pas faire déployer une vision en termes d'aménagement. Il n'y a aucun projet possible. La salle des Châtaigniers à Saint-Onès, ils ont commencé les acquisitions en 2006. Ils sont en train de la réaliser. Mais nous, on aura mis 2 ans de plus. On aura mis 12 ans, pratiquement, pour sortir ce projet. Voilà. Et je vous mets mon billet que dans quelques années, quelle que soit la municipalité ou quoi que ce soit, les jeunes diront, ça, c'était pas une mauvaise idée. J'en suis certain. Parce qu'il y a des jeunes qui s'en vont à Sommières, qui s'en vont à Beaulieu, qui s'en vont à Castries, qui s'en vont à Canillargues, que l'on perd, entre guillemets, en termes d'école, en termes de force économique et de pouvoir d'achat, parce que on n'a pas pu conduire une politique de maîtrise. La maîtrise foncière, c'est le secret dans tout cela. Le groupe GGL, quand il a réalisé la fond, le jardin d'Annette et le Paradou, ils avaient acheté les terrains avec une promesse de vente. M. Portales et M. Guiponi avaient acheté. Ils avaient simplement signé une promesse de vente où ils avaient donné des acomptes aux propriétaires auxquels ils ont réglé leur affaire, enfin leur affaire, leur compte, au moment d'acheter. Ils avaient juste versé un acompte, ça faisait 10 ans. Mais eux, ils avaient le temps. Et nous, aujourd'hui, regardez, car quand on a lancé cette démarche en 2006, il y a certains initiateurs en 2006 qui ne sont plus aujourd'hui élus, ils ne l'ont pas fait pour eux, ils l'ont fait pour les générations de demain. Moi, je ne serais pas élu toute ma vie. Eh bien, je l'ai fait également pour les générations de demain. Voilà. Voilà, voilà la sincérité du projet. Allez, je vous propose qu'on passe...
Non, ça y est, j'ai trouvé ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, bien sûr. Non, mais quand même. Donc, lorsque vous rachèterez, lorsque la commune s'engage à racheter les terrains, évidemment, donc le prix d'achat, donc il y aura un prix qui sera fixé, qui sera fait à partir du prix d'achat, rajouté de tous les frais de géomètre, de notaire, etc., plus les frais de gestion, plus les dépenses de remise en état, plus les frais financiers liés aux emprunts. Donc il n'y a rien de gratuit dans tout ça, c'est simplement un prestataire comme un autre. C'est un prestataire public, certes, qui a le mérite d'exister, mais il n'y a rien de gratuit dans tout ça. C'est ce que je vous disais au début. Voilà.
Si, le portage.
Tant que le portage.
Tant que le terrain, il n'est pas utile, tout ça, ça se dénoue, quand tu as vendu. Mais les 5 ou les 10 ans où il faut porter le projet, tu décaisses pas. Donc ça veut dire que nos propres... ça veut dire que notre propre endettement, par exemple, n'est pas marqué. Non, mais c'est le portage, il faut le portage, c'est l'outil de portage.
À la fin, ça coûtera pareil.
Alors oui, sauf que cette gomme t'a...
Ça j'ai compris.
Allez, maintenant que tout le monde a compris, on passe au vote. Allez, qui est... Alors, il est proposé au moment du conseil d'approuver le projet de convention d'anticipation foncière signé entre la commune de Moyaux-Canon et l'établissement public foncier de Moyaux-Sillon, d'autoriser le maire à signer la dite convention ainsi que tout document sera porté dans cette affaire avec une convention dont le montant maximal est fixé à 4 millions d'euros, c'est ça. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Cassard, Bernard, nous parle de l'idée, justement.
Oui. Oui, alors là, vous avez l'habitude maintenant de ces opérations d'extension du réseau. Vous savez que lorsqu'il y a une extension de réseau nécessaire, pour un permis de construire, la commune fait l'avance et récupère sur le pétitionnaire. C'est le cas ce soir. Lidl donc a déposé un permis de construire, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un magasin. ERDF, qui a été consulté, demande à ce qu'il y ait une extension de réseau, dit qu'une extension de réseau est nécessaire. Ces travaux d'extension du réseau coûteront 16 713,69 €, toutes taxes comprises. La commune donc fait l'avance et se fait rembourser par le pétitionnaire qui est Lidl. Voilà.
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
J'ai une question. Est-ce que c'est quand la mairie? C'est tout de suite? Donc c'est juste parce que ERDF ne peut percevoir que de votre part.
Le titre de recette a été émis simultanément.
D'accord.
Merci. Alors, le point suivant est relatif à la dérogation au transfert de la compétence à la promotion du tourisme dans la création d'offices de tourisme au sens de la loi NOTRe. Alors, c'est un sujet qu'on a déjà abordé pour ceux qui siègent à l'intercommunalité. Vous le savez, la loi NOTRe est une loi qui, dans sa mouture initiale, dépossédait les communes de leur gestion des offices de tourisme. Donc, on a bien sûr réagi et l'article 18 de la Montagne 2, dite de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, adopté le 19-2016, instaure une dérogation au transfert de la compétence pour les stations classées, ce qui est le cas de notre commune. Ce texte de loi permet aux communes classées stations de tourisme au 1er janvier 2017 ou ayant déposé un dossier de classement avant cette date, de pouvoir conserver par délibération leur office de tourisme communautaire. Donc cette disposition est une dérogation au transfert de la compétence promotion du tourisme dans la création des offices de tourisme au niveau intercommunal prévu par la loi. Donc c'est sur cette base qu'il est proposé de conserver l'exercice de compétences et les outils que sont les tourismes de tourisme à notre échelle. Bon, bien sûr, on essaiera, alors je précise que la même délibération a été prise par les Palavasiens et les Grands Motois, bien que l'objectif de Pays de l'Or 2030 soit une approche consensuelle de valorisation du territoire, mais chaque maire et chaque conseil municipal entend mener sa politique touristique au regard du projet politique et des enjeux qu'il veut promouvoir. Monsieur Santapo.
Oui. Donc, je vais faire à peu près la même intervention que j'avais fait à l'agglomération là-dessus, en fait. C'est que la loi elle a été faite, effectivement, pour essayer de rendre en commun certaines choses pour en diminuer, notamment les coûts. Et en fait, le fait de se désengager par rapport à cette loi, fera qu'il y aura tendance à se laisser aller, à ne pas avoir de politique commune et ne pas avoir un désengagement de coûts par rapport à ça. Mais je comprends très bien, après, l'intérêt de garder ce genre d'office à l'intérieur des municipalités.
Très bien, M. Saint-Apo. Je vous entends, si vous voulez.
Oui, mais je voudrais faire juste une réflexion. Bon, je suis d'accord avec la proposition, hein, comme j'en ai été d'accord en agglomération, mais les communes au nord de l'étang, donc les petites communes, Candiac, Vansargues, Valergues, de Saint-Onès, vont profiter de la compétence tourisme que de toute façon on aura l'agglomération du Pays de l'Or. Nous, on a une double casquette, on a le littoral et les terres, donc je pense que ça serait intéressant de s'intégrer avec ces communes-là dans un programme de développement du tourisme terrien. Si je peux l'appeler comme ça, du tourisme rural. Voilà, c'est juste une piste de réflexion à mener.
Monsieur Bourguet, vous pensez bien que la politique de l'office de Moyaux-Carnon met en avant et la spécificité littorale de Carnon et la ressource, la richesse de cette bovine et cette agriculture qui nous valent l'appellation de jardin de Montpellier. Et c'est là-dessus que nous travaillons, sur cette labellisation qui est... à mon avis, une prérogative que nous devons garder, même si nous sommes dans un cadre plus large, celui de la région, où la région porte une politique plus large. Je dirais que d'une manière plus symbolique, nous devons, même si la simplification des millefeuilles administratifs est une vérité à laquelle nous pouvons souscrire, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, la loi NOTRe, si on suivait toutes ces préconisations ou toutes ces incitations, dépouillerait totalement la commune de ses prérogatives et de son identité. J'ai parlé tout à l'heure du cadre de vie, mais le cadre de vie, c'est aussi notre identité. L'identité, c'est quelque chose qui nous est cher. Aujourd'hui, on est dans une démarche d'accompagnement d'une population touristique qui vient, on n'accueille pas, on n'a pas un potentiel touristique. Un champ d'exploration comme Port Camargue, comme des villes qui sont vraiment très particulièrement équipées. Nous accueillons surtout un tourisme régional et j'imagine que cette chose-là, on peut la faire au mieux des intérêts des acteurs économiques pour justement vendre des produits, du vin et d'autres choses. Donc là-dessus, il y a convergence. Pardon ? Oui, on a déjà commencé à travailler là-dessus et. L'Office de tourisme de Carnon, qui est labellisé, entend garder sa compétence. Quand je dis de Carnon, de Mogyokano. Et ma demande, il vient justement d'étendre cette promotion touristique au-delà d'une simple vitrine balnéaire, d'une station balnéaire, puisque Kanon est une ville à l'année, et que Mogyo est également une ville à l'année, et que le tourisme, ce n'est pas simplement bronzer et bronzer sur le sable de Kanon. C'est pourquoi je vous demande d'acter, conformément à l'article 18 du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la dérogation au transfert de la compétence promotionnée du tourisme pour notre commune, station classée de tourisme. Voilà. Et de m'autoriser à signer tout document permettant l'exécution de cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Capelletti?
Je m'abstiens, je fais un petit commentaire. Je suis d'accord avec mon collègue Santapo. C'est-à-dire qu'effectivement, la loi NOTRe va dans le bon sens sur le. Effectivement, le partage de compétences. Mais effectivement, dans ce cadre-là, compte tenu aussi de la gouvernance de l'aglo, il ne faut pas s'en cacher, actuelle, il vaut mieux effectivement garder notre compétence sur le port de Carnon. Voilà. Donc c'est d'où mon abstention, en fait. C'est-à-dire, la loi NOTRe va dans le bon sens, mais effectivement, localement, son application pose problème. Et voilà.
Note acte, merci. Le point suivant est relative alors à une autre disposition de la loi NOTRe, qui est celle du transfert des ports aux intercommunalités. Donc il s'agit là, alors même si la commune de, je vais quand même vous lire en extenso le document, qui n'est pas très long, même si le port de Carnon ne correspond pas à ce que décrit la loi NOTRe avec une activité économique adossée à son exploitation, nous désirons néanmoins nous associer par un vœu de soutien à la Fédération française des ports de plaisance. Et non l'UVPLR. Il y a une erreur, c'est la Fédération française des ports de plaisance. Voilà. Je rappelle même du Conseil que sur la loi NOTRe, parmi les compétences transférées aux intercommunalités, il est prévu que la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports soient transférés au plus tard au 1er janvier 2017. Je précise que la FFPP, la Fédération française des ports de plaisance, à la demande de nombreux gestionnaires de ports communaux, s'est entourée des conseils du cabinet Lafarge Associé, partenaire de la Fédération française des ports de plaisance, afin d'accompagner les élus des communes portuaires s'opposant au transfert de propriété d'office de leurs ports. Ainsi, un projet commun de délibération a été diffusé à l'ensemble des adhérents en vue d'une démarche collective pour les communes qui souhaitent refuser le transfert de propriété de leurs ports. À l'instar des décisions prises par les villes voisines, Palavas, la Grande Motte, je propose aux membres du Conseil d'entériner le projet de délibération tendant à acter que le transfert du port de Canon à l'agglomération du Pays de l'Or n'est pas concerné par les dispositions de la loi NOTRe. En somme, bien entendu, on ne va pas opposer les délibérations à une loi. Ce qu'on dit, c'est que nous en sommes, par l'analyse qui est faite, distraits. Nous ne sommes pas dans ce champ de compétences-là. Néanmoins, nous estimons que la gestion des ports, au titre de la solidarité nationale, doit rester à l'initiative des communes, comme celle des offices de tourisme.
C'est pas des... Sur la discussion précédente, pour faire très, très simple, la question précédente, il y a eu un cavalier législatif, on s'est mis dans les patins de ce cavalier législatif, oui. Et on garde notre office du tourisme, donc il y a un cadre légal pour qu'on puisse le faire. Donc ça, c'est une délibération qui a une valeur juridique.
Oui.
Cette délibération-ci, elle dit que Carnon n'est pas impacté par la loi NOTRe. C'est ça qu'elle dit, on est bien d'accord.
Oui.
Carnon, le port de Carnon, il n'y a pas de danger, la loi NOTRe ne le remet pas en question. C'est ça que dit la...
Je vous lirai la délibération quand même.
C'est ça que dit notre délibération. Mais que pour des raisons qui regardent M. le maire, que je ne connais pas, il y a une forme de solidarité avec les autres ports pour combattre la loi NOTRe. Je me sens moins concerné que vous par cette forme de solidarité. Donc moi, je serai solidaire avec la loi NOTRe sur cette question-là.
D'accord. Je vous lis la délibération. Considérant qu'une zone d'activité économique peut être qualifiée comme telle dès lors que sont réunis les critères cumulatifs tenant un aménagement aggloméré et homogène dans un périmètre cohérent regroupant plusieurs établissements d'entreprise, en vue d'y réunir une pluralité d'activités économiques pour développer une offre économique coordonnée qui est initiée par la puissance publique, considérant que ces critères cumulatifs ne peuvent être considérés comme réunis s'agissant du port communal de Mogio-Carnon. Dans la mesure où, géographiquement, le port de Carnon est implanté au cœur même de la station de manière parfaitement intégrée au tissu urbain, sans qu'il ait jamais été poursuivi de quelconque démarche d'ensemble, tendant à organiser ou coordonner une activité portuaire homogène, à fait l'ancienne et qu'il n'y a pas de chantier naval sur la commune ni à ses abords immédiats. Bon, nous, ce qu'on dit, c'est que, même considérant que nous ne cumulons pas les critères requis pour être transférables à l'agglomération, c'est un geste, j'allais dire, de solidarité politique, comme vous voudrez, vous êtes attentifs au symbole, je vous propose de nous associer à cette démarche qui affecte les nôtres. Voilà, c'est tout. C'est l'indépendance, c'est, en fait, c'est la défense des communes, c'est tout. Voilà.
Je souhaite dire que dans notre histoire, le port de Carnon a été géré par la communauté de communes. C'était oui. Pour préfigurer, à oui. L'époque, oui. Une ambition collective pour pouvoir préfigurer une ambition collective. Je dirais qu'un jour, on aurait demandé la gestion de l'aéroport de Mogio-Carnon et on aurait cramé la CCI. Si on en revenait à ce niveau d'exigence offensive au niveau du pays de l'Orche, je serais ravi. Donc vous voyez, comme je suis fidèle à notre tradition politique,
très bien.
Je ne vous suis pas sur cette pente-là.
Vous avez la suite à les idées. Allez, on y va. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe au point suivant, qui est la demande de dérogation pour le bâtiment de la capitainerie concernant la demande d'adaptabilité. En fait, si vous voulez, donc, nous avons des conditions de mise en accessibilité pour tous les établissements recevant du public. Et il arrive parfois que s'il y a une demande, en cas d'impossibilité technique, une demande de dérogation doit être sollicitée. Pour la ville, le conseil municipal a validé en date du 5 octobre 2015 l'agenda d'accessibilité programmé auprès de l'État pour les ERP de la commune de Mongio. Pour le port, les règles d'accessibilité s'avèrent respectées pour les blocs sanitaires et les abords du périphérique portuaire. Par contre, pour le bâtiment d'accueil, en revanche, pour le bâtiment d'accueil, il ressort du diagnostic réalisé par la SPL lors aménagement que la capitainerie de Carnon présente une impossibilité technique structurelle empêchant cette mise en conformité. Sachez qu'il y a une étude en cours, un programme en cours, en vue de la déconstruction et de la reconstruction du bâtiment principal. Donc je vous demande de m'autoriser à présenter au service de l'État la demande d'adapt à M. le préfet et sa dérogation pour le bâtiment de la capitainerie. M. Craver est à votre disposition pour répondre peut-être sur des côtés plus techniques. M. Santapo.
Oui, mais justement, je voulais savoir quelle était l'impossibilité du bâtiment. La nature de l'impossibilité.
Capitaine Henri.
Monsieur Balsamo, peut-être, excusez-moi,
Monique. Oui, je... L'impossibilité pour.
L'impossibilité technique de la réalisation.
Mais parce que nous sommes en train de faire des études pour faire des travaux, parce que pour mettre le bâtiment aux normes, on a une capitainerie qui est un peu vétuste. Donc on réfléchit à savoir comment on va pouvoir le mettre aux normes, si on ne peut pas utiliser, je vous explique, si on ne peut pas utiliser, vous savez, à l'extérieur de la capitainerie, où il y a la station d'avitaillement, là, il y a un bâtiment, donc on vient de voir si on peut mettre les handicapés là, si on met un ascenseur, etc. Donc on demande un décalage dans le...
Il a prononcé le mot magique. Il y a un étage, il n'y a pas d'ascenseur. Pour faire simple.
Je connais bien la capitainerie d'Acarnon pour y avoir travaillé...
Donc on ne peut pas répondre, si vous voulez, en disant eh ben, on met un ascenseur, bon, ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Ou alors si on utilise la station d'avitaillement, sachant que cette station d'avitaillement, l'été, elle est utilisée par le sauvetage en mer, hein, c'est là qu'ils ont leur refuge, etc. Donc on réfléchit à des solutions. Voilà, voilà d'où la demande de report. Sachant qu'au rez-de-chaussée, la capitainerie, quand vous accédez à la capitainerie, il y a une accessibilité pour les toilettes et pour les douches pour handicapés, puisqu'il y a une rampe déjà existante. Donc là, nous, c'était l'accessibilité au niveau bureautique, au niveau du bureau, si un handicap, enfin, quelqu'un en mobilité réduite voudrait faire une inscription, etc., d'une location. Voilà. Mais bon. Sachez qu'au rez-de-chaussée, il y a un accès technique qui permet aux handicapés d'aller aux
toilettes et aux douches.
Non, mais c'est ça, oui. En plus, bon, c'est vrai que bon, la réglementation nous oblige, disons, à rendre les bâtiments accessibles au public, et bon, la capitainerie, bon, elle fait partie, et bon, par rapport à l'étage, si le public est reçu, bon, il est reçu actuellement, il faut créer un ascenseur, il y a beaucoup d'ouvrages à réaliser, il y a une étude qui est en train de se réaliser pour voir la faisabilité.
Mais je me doutais, parce que je connais la configuration de la capitainerie de Cardon, que pour monter un escalier avec un fauteuil roulant, ça reste relativement compliqué. Donc, il fallait effectivement réaliser un ascenseur, mais je n'avais pas besoin d'une étude pour le savoir, je le voyais visuellement. Donc là, ce que vous nous demandez, c'était de... de faire une demande auprès d'un organisme pour obtenir une dérogation sur le bâtiment, et cette demande elle va durer longtemps.
Le temps qu'on rénove la capitainerie, bon, on va vraisemblablement la démolir et la reconstruire.
Monsieur le maire, sur les questions d'adaptation aux personnes en situation de handicap, on a déjà eu un échange où Madame Gély s'était émue de mon approche qui ne rendait pas hommage au travail qu'elle avait fait à Cardon. J'ai bon souvenir du travail qu'on a fait sur l'accessibilité des plages, ainsi de suite, et je ne remets pas cette partie-là du travail en cause. Par contre, sur cette procédure étatique, on a une année de retard, parce que c'était fin 2015 qu'on aurait dû être dans les clous et dans les normes. Donc, on demande encore une rallonge de temps. Première question, c'est est-ce qu'on est sous contrainte d'amende ou pas?
Non,
parce que ça a été renégocié, donc on n'est pas sous contrainte d'amende.
Non, il y a eu une prolongation jusqu'en 2018 pour les bâtiments publics.
Bon. Moi,
on va le refaire, on va pas mettre de l'argent sur quelque chose qu'on va refaire totalement.
Oui, on va la
rénover. Bon, l'idée est là, quoi.
La question en fait qui est posée, c'est vous avez fait une étude. Vous avez demandé à l'ASPA de faire une étude sur la capitainerie.
Oui.
Ça sera une étude de reconfiguration totale.
Oui.
Bon. Pourquoi pas? Donc, et ça serait à quel horizon la reconfiguration? C'est quoi? On l'a fait sous un an, deux ans, trois ans?
Je serais tenté de dire.
En cohérence avec la passerelle?
2017-2018. Le temps que l'entreprise soit désignée, le choix va être. On va passer un conseil municipal. La décision de refaire la capitainerie le 23 janvier. À partir de là, le temps va marcher.
Bon.
On n'a pas été en mesure de préparer les documents pour ce conseil municipal, parce que l'étude nous est arrivée très tard. Bon. Elle n'a pas d'ailleurs été présentée au conseil municipal.
La prolongation étant jusqu'en 2018, on peut la faire en 2018.
Oui, moi je... Bon, je sais qu'on a la ligne EPR, enfin, mise aux normes pour les personnes en situation de handicap et pour leur accueil, la ligne est abondée. Puisqu'on a de l'argent sur cette ligne, sur les budgets précédents. Le fait qu'on fasse, peut-être pas sur la... Vous avez raison de le dire, sur la capitainerie, si on la détruit, il faut pas... Mais le fait qu'on fasse un effort sur la qualité de notre accueil, ça serait pas une mauvaise chose. J'ai vu par exemple, j'ai bien vu la programmation qu'on fait sur les arrêts de bus. Bon, on n'a pas pris une décision budgétaire, on n'a pas fait de décision budgétaire modificative pour la compagnie. On aurait pu financer tout de suite. Ça serait bien qu'on fasse un geste pour dire qu'on accélère et qu'on n'attende pas le dernier moment, alors qu'on a sur cette question-là l'argent sous le coude. J'aimerais qu'on fasse un effort pour accompagner Mme Gély.
En sachant que c'est le budget du port, que ce n'est pas le budget de la commune.
sur l'ensemble de la, oui, mais sur l'ensemble de la commune, et on pourrait peut-être accélérer ce dossier-là, qui est un dossier sensible socialement.
Absolument.
Et vu que Mme Gély a fait un travail, je ne voudrais pas me retrouver à dire qu'on est en retard, alors que Mme Gély, sur le front de mer, s'est positionnée pour être en pointe avec l'aide du département. Donc je ne voudrais pas qu'on ait un conflit.
Avec l'office de tourisme, nous sommes à destination pour tous, effectivement, avec des objectifs qui sont ciblés et que nous avons atteints.
Non, mais moi, je le dis sur Carnon, bon, voilà, moi j'ai eu des retours pendant la campagne, ou sur la circulation de Carnon, puisqu'on l'a écrit, on pourrait un peu améliorer. Si on faisait un petit
coup... C'est ce que l'étude urbaine est en train de révéler, en termes de fonctionnalité. Vous avez raison, il faut créer une ville avec des mixités fonctionnelles, et notamment pour les personnes qui sont en situation de dépendance.
Oui. Donc là, sur ce dossier-là, si on faisait un effort budgétaire, qu'on sanctuarise ce dossier-là et que tout ce qui est déjà budgété, on le mette...
Madame Gély était là, elle pourrait vous dire...
Elle était désolée quand je disais qu'il faut aller plus fort et plus vite, alors qu'elle a essayé de faire mon boulot.
Vous l'avez dit. Merci pour elle. Allez, qui est contre pour cette... demande de dérogation. Qui s'abstient? Je vous remercie. Deux sujets pour le port. Le premier pour Mme Favier, le second pour M. Balsamo.
Alors, il s'agit d'une provision pour les travaux de dragage, puisqu'en effet, depuis quelques années, le port de Carnon voit une accélération de l'envasement de ses bassins portuaires qui met en péril la sécurité de la navigation. Donc depuis les dernières études et les récents curages des bassins, il est constaté qu'il y a une importante accumulation de sédiments au débouché du canal dans le port, qui conduit à relancer de façon anticipée une procédure réglementaire de demande d'autorisation de dragage, et qu'en conséquent, le budget annexe du port devra supporter une charge supplémentaire. Donc, au niveau de la provision initiale, il était prévu 420 000 euros hors taxe et il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser la réalisation d'une provision complémentaire de 222 000 euros hors taxe sur le budget portuaire afin d'étaler la charge prévisionnelle sur les travaux de dragage.
Merci. Donc effectivement, c'est une provision pour une action récurrente.
Oui, c'est juste une question, parce que je vois que c'est quand même des sommes conséquentes, et on nous dit que c'est une accélération de l'envasement qu'on constate. Est-ce qu'il y a des recherches pour savoir d'où ça vient, si on peut ne pas lier, etc. Voilà.
Alors effectivement, ça fait partie des préoccupations que j'ai soumises au Conseil syndical du CIMO, qui se déroulera demain. Le CIMO qui étudie, comme chacun sait, qui travaille pour la prévention des inondations, qui travaille pour la qualité des eaux et le milieu écologique, la ripisylve 2, mais que je demande de saisir sur cette problématique qu'est l'envasement, puisque quand même ce sont des émissaires qui viennent de plus haut, qui amènent de la vase dans l'étang, laquelle vase conjuguée aux travaux de dragage qui ont été faits sur le canal du Rhône 7, qui conduisent justement à un envasement un peu plus, disons, accéléré, un peu plus important. Nous sommes en train, à l'interne, sans payer un cabinet, de voir quelles sont les différentes phases de dragage qui ont eu lieu depuis la création du port, quelle est leur occurrence, si elles se rapprochent. Et aujourd'hui, la situation est plus préoccupante qu'avant, non pas parce que les sédiments s'accumulent, mais parce que, outre l'opération qui est une opération qui coûte entre 600 et 800 000 euros, est assez onéreuse, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, les lieux sur lesquels on peut déposer les sédiments pour les réessuyer, c'est-à-dire pour que le temps, l'eau et le vent fassent leur œuvre, sachant qu'on a 30 000 mètres cubes de dragage à faire, la cubature, c'est 30 000 mètres cubes, c'est énorme. Nous ne sommes pas certains d'obtenir de la part de la direction de l'environnement la possibilité de les déposer comme on le faisait par le passé sur le triangle de la Branche ou dans des lieux comme ça. Voilà. Donc s'il faut clapper la mer ou s'il faut déposer en transportant les sédiments que l'analyse déterminera comme étant possiblement éliminables sur place ou devant être traités avec le garde, alors pour le coup, c'est 1 million d'euros que ça se chiffrerait. Voilà. Donc, ce sont des choses qui nous préoccupent. Tant que nous avions la possibilité in situ de déposer, il suffisait quand même de faire quelque chose d'assez naturel. Voilà. Donc, là, c'est simplement une opération comptable qui propose d'abonder sur le roulement de fonds d'excédent et le budget prévisionnel. Il faut provisionner chaque année pour justement obtenir la somme nécessaire quand l'État nous autorisera à draguer. Par endroit, c'est plusieurs dizaines de centimètres par an. Voilà. Pour les pêcheurs, chacun raconte son expérience. Il semblerait que depuis le dragage du port, du canal, le phénomène soit accéléré. On passe au vote, s'il vous plaît. Qui est contre? Le top en dragueur. Qui s'abstient? Je vous remercie. Explication de vote.
Oui, moi je pense que c'est une écriture comptable qui n'a aucune notion d'urgence et ni de provision pour risque, parce que c'est pas comme port sans vase, c'est pas un risque. Ça doit être dans la gestion courante du port, ça doit être envisageable. Y compris si on le provisionne, on doit pouvoir le provisionner. Là, vous faites une écriture comptable. Je vous ai déjà dit que je la trouvais habile. Mais que moi, je n'aurais pas pris ce risque-là, puisque c'est un établissement public commercial et que c'était un peu tiré par les cheveux. Un jour, on se fera couper les oreilles en pointe. Hein. Donc,
c'est pour ça que je vais écouter. T'as commencé à la passer après. Imaginez-vous qu'on fasse des choses qui ne sont pas régulières. Monsieur Prenet, je vous signale quand même qu'on a été contrôlé par la Chambre régionale des comptes il n'y a pas si longtemps que ça, et que la démarche qui est la nôtre et que nous poursuivons n'a jamais été décrite comme étant contraire aux dispositions légales. Voilà. C'est pas prévu, pas pris, parce qu'ils l'ont contrôlé.
Ça m'étonnerait, ça vous le faites depuis 2 ans, ça m'étonnerait que vous étiez contrôlé les 2 dernières années.
Mais il y a que moi qu'on le fait, ça, comme provisionne, monsieur Prodé. Est-ce que vous êtes élu depuis 2 ans avant, ah, vous ne le suiviez pas de près, peut-être.
Mes talons étaient pas mal.
Bien, monsieur Balsamo, point suivant, premier.
Convention d'occupation avec le propriétaire du navire promenade siège à Monsieur le maire expose au membre du conseil municipal que le propriétaire du navire de promenade est siège de 5, M. Carler, souhaite pouvoir disposer d'un point d'accueil de sa clientèle au droit de son navire. Le conseil d'exploitation du port a émis le 8 décembre un avis favorable à la validation d'une convention d'occupation prenant effet au 1er janvier 2017. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention d'autorisation d'occupation précaire qui s'élève, excusez-moi, je ne vous ai pas dit le montant, pardon, à 222,90 € par an. En fait, c'est quoi qu'on autorise? Il a son bateau, il accueille du public, il a une banque qui met devant son bateau, qui fait 3 mètres sur 1 mètre, pour, avec sa petite publicité, pour accueillir le public. Et c'est cette banque-là, comme il est sur le domaine portuaire, et que nous, on ne veut pas lui faire gratuit, parce que sinon ce serait l'anarchie, on le fait payer. Voilà. Donc on demande l'autorisation terminée. Voilà, c'est tout.
Merci Dominique. On se vote. Contre, abstention. Merci. Jacques, suivant directeur d'accessibilité, programme arrêt de bus.
Et la commune, bon, on est en train de finaliser bon, les accès de bus et les accès de bus. Actuellement, nous avons 18 accès de bus qui sont réalisés sur 24. Et bon, c'est un programme qui se déroule qui va finir de se dérouler sur 4 ans. 2017, 2018 et 2019. Vous avez la liste en résultat. Les travaux de mise en accessibilité représentent pour la commune et la ville de l'agglomération près de 350 000 euros à réaliser avant 2018 et permettront d'avoir 33% des arrêts accessibles au PMR. Il est donc proposé d'approuver la liste et le financement des arrêts accessibles inscrits dans le schéma directeur d'accessibilité programmé du réseau de transport en commun de la communauté d'agglomération depuis lors. D'autoriser M. le maire à signer tout document intervenant de cette affaire. Les 2 arrêts de bus qui sont programmés, c'est un à la branche et les 2 arrêts de bus qui a avenue Jean Moulin, en face de cimetière.
Merci Jacques. M. Capetti.
Oui, je remonte des demandes sur le. Est-ce qu'il y a des arrêts bientôt prévus sur la Louvade? Ou pas du tout, est-ce que c'est partie des projets? Parce que non. Enfin, je vous fais donc cette remontée.
À ma connaissance, effectivement, À ma connaissance, il n'y a pas d'arrêt.
Il n'y en a pas de prévu.
C'est une zone d'activité économique, ce qui ne veut pas dire que les gens ne sont pas transportables. Hein,
non, mais il y a une. Enfin, moi, les échos et les discussions que j'ai, c'est qu'il y a une demande importante.
Ouais. Il y aura un arrêt de bus qui sera réalisé dans le cadre du zone du programme de voirie à Belgium à 6 km.
Mais on est loin de l'eau.
Voilà, c'est une voie de.
C'est pas des.
Sur, là j'imagine qu'on on négocie avec l'aglo, on cofinance, on ne peut pas aller plus vite que. Sur notre schéma, sur la montée en puissance,
non.
On se met d'accord avec.
Nous sommes obligés, si vous voulez, de tenir compte d'un paramètre qui est le temps de trajet. Le temps de trajet, ensuite, il est estimé à quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il excède une certaine durée. En conséquence, les arrêts sont calculés. De sorte qu'il y ait la satisfaction d'un transport de gens le plus nombreux possible, en même temps le plus limité possible. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Et si on est trop dans le. Si on a trop d'arrêt, il faut à ce moment-là imaginer que la ligne reste la même, mais qu'il peut y avoir du transport à la demande, du nombre en plus ou autre chose, du rabattement. Et il se trouve que Mongio ne bénéficie pas du rabattement. Les dispositions qui ont été arrêtées par la communauté d'agglomération plaident pour une ligne de Carnon, depuis Carnon, plus directe vers le tram, de Mongio plus directe vers Odysseum, et une démarche du rabattement des villages des périphériques vers Mongio, mais pas de transport à demande pour tout public. Le transport à demande existe pour les personnes, pour les aînés, monsieur 60 ans, 65 ans, 60.
Le sens de ma question, c'était sur le programme d'accessibilité, donc l'aménagement de nos arrêts. Ce programme-là, la montée en charge, donc le phasage, est-ce qu'on le décide seul ou est-ce qu'il est co-négocié avec l'agglomération ?
Il est programmé avec l'agglomération.
Ouais. Donc on ne peut pas aller plus vite que ça.
Non.
Donc c'est aussi nous qui formulons.
On pousse pour aller plus vite.
D'accord.
Oui.
Bon, donc là, si on dit ce soir et que. On aimerait que la loi aille un peu plus vite parce que on ne va pas attendre 2018 pour avoir un peu de dignité pour les personnes à accessibilité, à mobilité réduite. C'est sur la loi qu'il faut.
Il y a des progrès qui ont été faits, mais il reste encore à faire. Voilà ce que je dirais. C'est qu'appelait-il ?
Juste, donc moi, derrière ma question, c'est pourquoi il n'y a pas systématiquement des arrêts prévus dans les zones d'activité ? Parce que c'est quand même des zones. Très demandé, à la fois en aller, retour, etc. Donc il faudrait peut-être, il faut y songer.
On en parlera en commission de transport à l'agglomération, mais si M. Fillon est élu à la présidence de la République, il va nous supprimer la taxe transport, donc on va mettre les bus au garage.
Mais tu t'arrangeras avec Stéphane Rossi, hein.
Non, je te parle de M. Fillon. Je te parle de M. Fillon.
Mais moi, je te parle des transports gérés par l'aglo.
Ils sont financés par la taxe transport à 100%.
Oui, mais l'agglomération va s'arranger.
Le budget, non. Malheureusement, le versement de transport, M. Bourguet, n'arrive pas à compenser. On prend au moins 400 000 euros sur le budget général. Malheureusement.
Le budget de transport, il est
voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les voiries, sont d'intérêt communautaire dans les zones d'activité. On n'a pas compétence sur la voirie.
On n'a pas compétence, mais ça ne nous empêche pas d'ouvrir la bouche pour le demander quand même. Voilà.
Bien. Non, mais on voit bien des arrêts, là.
Oui. C'est l'aménagement. Là, on parle de l'aménagement. C'est pas la création, c'est des aménagements.
C'est pas la création, c'est l'aménagement.
C'est ça, les aménagements. On n'a pas la main sur les arrêts de bus.
Mais on peut les demander, on les demanderont. Voilà. Je prends cet engagement.
Capelletti, il y a un lien en dossier du conseil municipal, il tombe de sa chaîne.
Non, mais Laurent, ce soir, il est chaud, c'est à cause des primaires de la gauche. Hein, ça le perturbe. Il n'est pas comme ça d'habitude.
On se voit, hein. Je vous demande d'approuver la liste des arrêts. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Madame Patricia, Patti. Les projets de Cinéplan.
Alors, il s'agit d'une délibération sur le renouvellement de la convention passée avec l'association Cinéplan, qui programme une séance de cinéma mensuellement, donc chaque mois, le mardi, à 20h30. dans notre théâtre passager. Alors, c'est un dispositif qui permet à la ville de proposer au public une offre culturelle un peu plus élargie, une offre de proximité avec un choix de films récents et un coût modique pour la ville, puisqu'on tourne sur 230 euros pour nous et un tarif pour le public qui est de 4 euros ou 5 euros quand le film est en 3D. Voilà, donc il est donc proposé aux membres du conseil d'autoriser monsieur le maire à signer une convention avec l'association Cinéplan pour renouveler la convention.
Bien, tout le monde est d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Patty. Laurent, je te croire pour une modification du carbone des effectifs.
Oui, nous allons parler de la direction des ressources humaines. Ce soir, modification des tableaux des effectifs. Donc, c'est un peu récurrent. On parle d'avancement, vous avez pu le lire, de promotion, de mobilité interne et de mutualisation de services qui nous amène à vous proposer de supprimer à compter du 1er janvier 2017 sur le tableau des effectifs de la collectivité un emploi de conseiller socio-éducatif, deux emplois d'adjoint du patrimoine, un emploi d'attaché de conservation du patrimoine, un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, trois emplois d'adjoint technique. Nous proposons aussi de supprimer à compter du 1er février 2017 sur les tableaux des effectifs de la collectivité un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à temps non complet, 28 heures. Et nous, enfin, troisième proposition, la création à compter du 1er janvier 2017 de l'emploi d'éducateur des activités physiques et sportives. Tout ceci, bien entendu, a été proposé en CT, partagé en CT, et cette proposition n'a fait l'objet d'aucune remarque.
Comité technique, apparaît-il.
Comité technique.
Voilà. Passons au vote. Qui contre? Qui s'abstient? Contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Application de vote. Oui. Vous aviez fait de la jeunesse votre priorité. Je ne vois pas quant aux moyens que vous mettez en face au public jeune et aux moyens que vous redéployez. Ça fait à chaque fois qu'il y a une vague où on redéploie des postes, à chaque fois les ASN prennent perte de postes. Là en plus je vois des éducs. Bon, comme j'ai pas de vision globale.
Non, l'emploi de conseiller socio-éducatif, c'est un emploi transformé. C'est la même personne qui prend un emploi, un grade une fonction supérieure.
C'est la directrice du pôle jeunesse et médiation qui change de statut.
Voilà.
On n'enlève personne.
Il faudrait peut-être avoir, ça fait combien en gains et en pertes nettes d'emploi, hors transformation. Est-ce qu'au bout du compte, ça fait zéro? C'est-à-dire que c'est des suppressions de postes, mais c'est des promotions internes.
Là, ça fait zéro. Mais les autres, ça fait moins.
Non, mais. Et donc, ça fait combien en net, en fait? C'est ça, ma question. En net.
Le premier poste, on vient de le dire, il a été transformé. En tout, on perd 4 emplois. Voilà, 4 postes.
Donc, 2 d'ASEM.
Non, il y a des reclassements d'ASEM polyvalentes qui ont été reclassés. Parce qu'on le sait, ce sont des métiers qui deviennent vite usants au fil des années. Et notamment, le poste de 28 heures qui a été transformé en un plus au niveau informatique dans les écoles. Donc ce poste-là existe, mais d'une autre façon.
Donc ça fait 4 postes supprimés, mais qui ne sont pas remplacés, parce qu'on estime que le service qui était donné auparavant n'a plus lieu, ou c'est compensé par des gains de productivité.
La décision de transformer les postes d'ASEM polyvalente a été prise déjà l'année dernière. On a déjà discuté en conseil municipal. Là, ce n'est que la répercussion de fin d'année, où l'on voit que ces postes sont encore existants au tableau, et que l'on ferme parce que ce poste a été transformé. On ne peut pas garder les deux.
On a supprimé personne cette année. On a simplement fermé le administrativement des postes qui étaient déjà fermés.
Donc,
on avait, mettons, 360 personnes inscrites pour 350 titulaires. On a supprimé les 10 postes qui étaient en sus. Il y a un réajustement, une sorte de mise à jour. Et par rapport à ce que dit M. Pradeil, donc, contrairement à ce que vous laissez supposer, le pôle jeunesse et éducation est un pôle jeunesse qui est envié par nombreuses villes autour de chez nous qui n'existent pas et qui fait un travail remarquable. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on l'affaiblit, au contraire, on essaie de le professionnaliser. Et vous regarderez la qualification des intervenants,
qui justement travaille même avec le CCS pour arriver à professionnaliser tout ce qui est social ou aide psychologique ou ainsi de suite. Après, bon, vous êtes là, c'est peut-être un vieux réflexe que vous aviez.
Moi, je veux bien. Donc là, vous me dites que c'est pas une décision budgétaire, c'est une décision administrative qui suit la décision budgétaire.
Oui.
Donc c'est pas des décisions surnuméraires. Bon, très bien. Donc acte. Simplement, si on prend la comptabilité depuis le début du mandat, je maintiens que sur les ASEN qui sont quand même en présentiel jeune public, il y a une diminution. Si on prend la question du poste d'intervenant informatique, vous l'avez d'abord supprimé, on en a parlé en conseil municipal de manière assez engagée, vous l'avez rétabli, je m'en réjouis. Mais à la fin de la foire, quand on compte les bouses, c'est quand même une diminution sur cette question-là, alors que c'était votre priorité de campagne.
Quand on a moins d'élèves, on a moins de personnel, on diminue la voilure, malheureusement. Je préférerais moi qu'il y en ait plus. Après, les exigences qui sont les nôtres, ce n'est pas parce que numériquement vous avez une personne en plus ou deux personnes en plus que ça va forcément mieux. On est dans des cycles de formation et de responsabilisation du personnel titulaire. Aujourd'hui, chaque classe a son ancien titulaire, ce que la loi n'exige pas. La loi exige bien moins que ça. Donc je ne peux pas laisser dire que la qualité du service éducatif est en régression, au contraire. On passe au vote. Qui est contre? On a déjà voté. Lui me fait un papier. Point suivant, toujours M. Tricois.
Toujours des ressources humaines avec une convention d'adhésion à la médecine préventive qui nous est chère. Donc on renouvelle une convention avec le centre de gestion qui mettra à disposition les médecins pour nos agents.
Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Bonjour Laura.
Donc, indemnité des agents recenseurs. Donc, 4 agents ont été signés et une dotation de 3 709 € va être versée à la commune par l'INSEE pour couvrir l'ensemble des charges liées à cette opération. Monsieur le maire propose de répartir cette somme aux 4 agents recrutés, soit 927,25 € chacun, et demande à l'Assemblée d'adopter cette proposition dans tout ce contenu.
Je suppose que vous n'auriez pas l'inconvénient à ce qu'on les rétribue. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et Mme Sanchez-Bresson termine le Secours populaire et le vide-grenier spécial Noël. L'esprit de Noël aura décidément plané sur ce conseil.
Donc, comme chaque année, on fait un vide-grenier spécial Noël. Il y a 60 places qui sont proposées, 40 pour les habitants et 20 pour les 40 dans les quartiers concernés. Et 20 pour les habitants des autres quartiers. Les participants s'acquittent du paiement des stands dont le tarif a été fixé à 4 € en conseil municipal. On propose donc. Ça, j'étais en 2001, à vouloir aller vite, à sauter des étapes. Hein. Bref, de toute façon, en fait, on vous propose 200 € à donner au Secours populaire dans le cadre donc, du vide-grenier spécial Noël. Voilà. Donc, ils donc proposeront du conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association pour effectivement à la vente des stands qui sera réalisée, qui a été réalisée dans le cadre du vide-grenier spécial Noël.
Bien. On passe au vote. Contre, abstention. Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, je vous donne rendez-vous au prochain conseil qui aura lieu le 23 janvier. Nous ne pouvons pas le faire à Cardon parce qu'on n'a pas encore l'équipement Wi-Fi. Il se tiendra ici pour le débat d'orientation budgétaire. En attendant, je souhaite à chacun et à chacune de bonnes fêtes de Noël et de bonne santé à tous. Merci pour votre participation.